Eh bien, ça c'est très bien, frère Kidd. C'est épatant. Nous sommes exactement là. Amen. Vous voudriez dire un mot au sujet de la guérison? Oui, je suis l'homme qui a été guéri il y a 2 ans, à moitié prêt pour la morgue. Maman l'a appelé à frère Branham. Il est venu, lui et son fils, ils ont quitté la maison il y a 2 heures. Il est venu prier pour moi. Comment je n'avais plus la sensibilité de la taille jusqu'aux pieds. Aucune. Et 1 heure après qu'il a eu prié pour moi, il était reparti et toute la sensibilité était revenue. Dieu m'a guéri du cancer et il disait, il n'y a plus de rien. J'en ai des 9. On ne sait pas, mais Dieu les a remis en marche. Mais c'est moi. C'est ce qui est arrivé. J'ai 81 ans et au fil des années, partout, j'ai cherché à pousser à la roue pour renforcer le mouvement de la Pentecôte. Ça me fait bien rire. Frère Branham m'en parle. Ils se sont tous mis à bâtir des murs et se séparer entre eux. Ils ne peuvent pas avoir de réveil. C'est vrai. Il a raison là-dessus. L'Assemblée rit. C'est exactement ça, frère Red. Et c'est le résultat. Oh, c'est merveilleux. Ce n'est pas, j'aime ce petit témoignage, frère. On est maintenant relié par la radio dans les voitures. D'après ce qu'on me dit, ce serait cette petite partie-ci. Maintenant, est-ce que tout le monde se sent bien? Eh bien, alors, nous allons nous y mettre tout de suite. Pour suivre jusqu'à minuit, après, nous allons. Nous sommes si heureux que le Seigneur nous ait aidés et nous ait bénis. Maintenant, avant de nous y remettre, faisons donc une petite prière à celui qui nous a, que nous allons adresser maintenant. Bienveillant Père Céleste, tu entends le témoignage de ce vieillard rempli de piété, de sainteté tout au long de cet âge. Lui et sa petite épouse ont travaillé ensemble et comme il lui a fallu s'accrocher à toi, t'implorer de faire de son mari un prédicateur, et le voici. Et puis alors qu'il était étendu là, mourant, et que les meilleurs médecins du pays déclaraient, il est fini, il n'a plus que quelques heures à vivre, c'est fini, son corps est rongé par le cancer, il ne pourra plus jamais remarcher, l'infection qui s'est propagée dans ses chevilles, et tout, c'est en train de l'emporter, et le voici, des années plus tard, encore à l'œuvre. Nous nous sommes tellement reconnaissants, Père, c'est la preuve qu'une fois que la parole a été plantée et ensuite arrosée, elle produira la récolte. Maintenant, nous te prions, Père, de nous permettre cet après-midi de présenter ces paroles qui viennent de ta parole. C'est ta parole à toi et nous voulons la présenter telle qu'elle. Ensuite, Seigneur, arrose-la par l'Esprit. Nous te demandons, comme nous remettons entre tes mains avec ce message, de nous utiliser au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va s'y mettre sans tarder. Ma femme me disait ce matin combien c'était difficile pour les gens, vous savez, avec les jambes endolories et tout. Pour les dames et pour d'autres qui sont comme moi, qui avancent un peu en âge et devoir rester debout comme ça, j'apprécie ça, votre loyauté. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons revenir au message et continuer. Je ne veux pas être trop pressé, mais je veux quand même me presser assez pour tâcher de finir cet après-midi, si cela m'est possible. Ensuite, dès que nous aurons terminé, nous partirons tout de suite pour Tifton, en Géorgie, pas pour une réunion, une série de réunions. Nous serons à la salle de l'école secondaire là-bas pour une soir seulement, c'est-à-dire demain soir, et ce ne sera qu'un service de prédication. Je vais prendre un petit sujet tout simple ou quelque chose que j'ai prêché ici même parce que c'est simplement pour passer voir les gens là-bas. Ils n'ont pas vu une série de réunions ni rien comme ça. Alors nous, et maintenant, ce matin, nous étions arrêtés, nous parlions de notre sujet tiré de la Genèse au chapitre 1, le verset 11 en particulier. La parole parlée est la semence originelle. Et maintenant, mon but ce matin et aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer aux gens. Est-ce que c'est en marche? Oui. D'essayer d'expliquer aux gens la façon dont j'ai agi là. Pourquoi j'ai fait les choses que j'ai faites et je suis bien conscient que ces bandes sont en train de s'enregistrer et qu'elles seront distribuées, probablement que bien des gens les entendent après mon départ si Jésus tarde. Mais je tiens à dire que je crois que la parole de Dieu, elle est la vérité. Bon, Là où nous étions arrêtés, nous parlions des derniers jours, de ce qui est arrivé au ministère des évangélistes, qu'il y a quelques années, enflammait vraiment le pays. On dirait qu'ils se sont tous arrêtés. Or, je ne peux pas dire qu'ils ne sont plus sur le champ de travail. Ils sont toujours à l'œuvre, mais on dirait qu'il n'y a pas de résultat. Ça ne donne rien. Voyez, qu'est-ce qu'il y a? Le champ a été ensemencé. C'est vrai, voyez, maintenant, souvenez-vous, n'oubliez pas, quelqu'un m'a demandé de répéter ce mot hébreu de nouveau dans Joël, le chapitre 2, Joël 2, 28, où il parle de la venue de la pluie, de la première saison, de la pluie, de l'arrière-saison, le mot première. En hébreu, c'est le mot M-O-U-R-E-H, mourai, qui veut dire enseignement. Autrement dit, il y aura une pluie d'enseignement et une pluie de moisson. Or, l'appui de l'enseignement, nous l'avons reçu, et nous sommes maintenant prêts à recevoir l'appui de la moisson. Vous savez, la première pluie, c'est quand vous plantez la semence. C'est elle qui fait que votre récolte commence à croître. Ensuite, juste avant qu'elle arrive à la maturité, il y a une autre récolte. C'est ce qu'on appelle l'appui de la moisson. Nous savons quand cela arrive, l'appui du printemps et ensuite l'appui qu'il y a vers le mois de juin, elle produit votre récolte. Maintenant, l'appui, nous avons vu ce que c'était l'esprit. Et maintenant, là où nous étions arrêtés, j'exprimerai comment, selon moi, toute la chose se passerait. C'est-à-dire que je crois que la pluie a été apporté, l'appui. C'est pour ça que nous avons cette alchimie. C'est parce que la terre est déjà tout ensemencée. On ne trouve pratiquement plus d'endroits qui ne soient déjà ensemencés. Et cela a été diffusé par la radio, la télévision, les bandes, verbalement, tout. C'est ainsi que le pays a été complètement ensemencé. C'est ainsi que les semences ont été plantées. Maintenant, de ces semences qui ont été plantées, on ne pourra pas tirer quoi que ce soit d'autre que ce qui a été planté comme semence. Vous comprenez maintenant? Ce qu'il y aura, ce sera les semences qui ont été plantées. Or, l'esprit descendra, mais il produira une moisson de la semence sur laquelle il descendra. Maintenant, souvenez-vous-en bien. Très bien. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, le groupe pentecôtiste et le groupe évangélistique, œuvreront ensemble dans une dénomination qu'ils s'uniront et deviendront tous membres de la Fédération des Églises du Conseil ou du Conseil des Églises. Ils en font tous partie. Déjà. Et c'est par eux que s'exercera une contrainte ou un boycott qui arrêtera tout ce qui ne fait pas partie de cette union des Églises. C'est que la Bible dit qu'il y aura un boycottage à cause duquel les gens n'allaient même plus pouvoir acheter ni vendre à moins d'avoir reçu ceci, la marque de la bête, qui est le romanisme, et l'image de la bête, qui est le protestantisme. Alors que l'image, la bête, avait reçu le pouvoir, l'autorité d'animer l'image pour qu'elle parle, et elle l'a fait. Et ça, c'est la confédération des églises, quand elles se réuniront dans une confédération. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes ici. Et je ne sais pas, Jésus pourrait venir cet après-midi. Il pourrait venir l'an prochain. Je ne sais pas quand il va venir, mais souvenez-vous, si je ne dis... Je ne vis pas assez longtemps pour voir le jour de sa venue, mais j'espère bien que je le verrai. Et pour une raison ou pour une autre, je crois que je le verrai. Or, si je ne le vois pas, ne laissez jamais cette parole s'éloigner de vos oreilles ni de votre cœur. Voyez, souvenez-vous-en, je parle au nom du Seigneur. Alors, je crois de tout mon cœur que c'est comme ça que ça va finir. Il y aura un genre d'union, un boycottage. Tous les endroits comme celui-ci seront fermés définitivement et vous ne pourrez pas prêcher à moins d'avoir obtenu une autorisation ou un permis délivré par cette Fédération des Églises vous donnant le droit de faire une réunion. C'est presque, on le voit déjà maintenant, c'est ce qui se fait au sein même de la dénomination. On voit par là où elle en est. Oui, monsieur, vous devez avoir ça. Ça va finir par en arriver là. C'est ma prédiction. En tant que serviteur de Christ, par la compréhension que j'ai de la parole et par l'inspiration, c'est ça qui finira par arriver. Là, tous les signes indiquent que c'est la fin. Je viens de prêcher là-dessus, même que la Vierge folle a commencé à réclamer de l'huile. Or, souvenez-vous, elle était une Vierge. Et si elle est une Vierge, elle est une Église. Voyez, nous allons y venir cet après-midi dans l'Apocalypse 17. Si elle est une Vierge, elle est une Église, parce que l'Église est une Vierge. Paul a dit, je vous ai fiancés à Christ comme une vierge pure. La prostituée d'Apocalypse 17 était une église. Jean s'est émerveillé devant elle à cause de sa beauté, de ce qu'elle était. Elle était très belle. Et pourtant, en elle était trouvé le sang de tous les saints de Jésus-Christ qui avaient été assassinés en elle, c'est vrai. Je crois que c'est 68 millions, selon le martyrologue, que l'Église catholique romaine aurait mis à mort à partir de Saint-Augustin d'Hippone. 68 millions de protestants ont été tués et consignés dans les registres du martyrologue par l'Église catholique parce qu'ils étaient en désaccord avec sa doctrine. Ce n'est pas étonnant que la Bible ait dit « En elle a été trouvé le sang de tous les martyrs ». Or, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il viendrait un temps où il vous ferait mourir en pensant rendre un service à Dieu? Et ils sont sincères à ce sujet. Ce ne sont pas des hypocrites. C'est ce qu'ils croient. C'est ce qui leur est enseigné. Une fois que cette parole a été plantée là, elle doit produire une récolte. C'est sûr. Elle doit le faire. Souvenez-vous, nous nous en tenons à la semence. C'est notre sujet, notre semence. La parole parlée de Dieu est une semence. Voyez, il faut que tout soit ramené à cette parole et cette parole produira ce qu'elle dit. C'est pour ça que je crois à la guérison divine. C'est pour ça que je crois aux visions. C'est pour ça que je crois aux anges. C'est pour ça que je crois ce message, c'est parce qu'il sort de la parole de Dieu et tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, je n'y crois pas. Il se pourrait que ce soit juste, mais quand même, je me tiendrai strictement à ce que Dieu a dit. Et alors, je serai sûr d'avoir raison. Maintenant, Dieu peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu. Mais tant que je m'en tiens à sa parole, alors ça, je sais que c'est en ordre. Ça, j'y crois. Donc, cette vierge folle est une femme. Elle est une église, mais elle est dépourvue de sagesse, voyez? Elle a simplement laissé traîner les choses. Et pourtant, elle prétendait être l'épouse. Et souvenez-vous, les choses vont toujours par trois. Pour la perfection, 3 est le nombre de la perfection. Les fonctions de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu le Père était le Dieu qui a vécu dans la colonne de feu. Il essayait d'attirer Israël à lui. Ils n'ont pas voulu venir. Dieu le Père a vécu dans le Fils ce qu'il a fait de lui. Dieu le Fils, le même Dieu, l'expression même de Dieu, la semence de Dieu manifestée, il essayait d'attirer les gens à lui, ils l'ont crucifié. Le Saint-Esprit est le même Dieu qui était au commencement dans le Fils de Dieu. Et maintenant, ici, l'autre fonction de Dieu, dans les derniers jours, il vit dans l'Église, il essaie d'apporter la parole parlée, comme les deux autres fonctions l'avaient fait aux gens, et il la rejette. C'est la même chose. Ce sont les trois fonctions ou manifestations d'un seul Dieu à l'œuvre. Et Dieu dans son peuple à l'œuvre aujourd'hui, c'est Dieu à l'œuvre. Voyez, c'est Dieu dans les gens. Si le Seigneur le veut, c'est de ça que je veux parler demain soir. Dieu dans son univers, Dieu dans son Fils, Dieu dans son peuple, et ainsi de suite. Et j'ai parlé de ça ici, je crois. Et donc, cette vierge folle, quand elle est allée acheter de l'huile, on l'a envoyée acheter de l'huile, et c'est là qu'elle a constaté qu'elle était venue trop tard. Pourquoi? Pourquoi, mon ami? Les semences ont été plantées, déjà, voyez? Il y en a eu 3 jusqu'à l'heure de Sodome. Il y a toujours eu ce nombre de 3 tout le temps. Il y a 3 venues de Christ. Il est venu une fois pour racheter son épouse. Il vient la fois suivante à l'enlèvement pour enlever son épouse. Il revient dans le millénium avec son épouse. Les choses vont toujours par 3. 3, c'est un nombre parfait. 5, c'est le nombre de la grâce. 7, est l'achèvement. 12, de l'adoration. 24 ou 40, ou de la tentation. Et 50, c'est celui du jubilé. Le mot même Pentecôte veut dire jubilé. 50, voyez, bon. Et donc, Dieu, dans ses nombres. Il est parfait dans ses nombres, il est parfait dans sa parole, il est parfait dans son action, il est parfait dans tout parce qu'il est Dieu parfait, oui. Et nous voyons que dans ces vierges, maintenant, regardez, il parle d'une prostituée dans la Bible. Maintenant, je demande à mes sœurs de me pardonner. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, je parle clair et net. Elle l'appelle la prostituée et la mère des impudiques, ce qui est la même chose. Maintenant, si vous remarquez, il est parlé d'une prostituée dans la Bible, c'est une église. Il est parlé d'une impudique par la Bible, c'est une église. Et il est parlé d'une épouse dans la Bible, et c'est une église. Voilà les trois. Nous allons y venir tout à l'heure pour montrer de qui celles-là sont les épouses et de qu'elles ont été rejetées, et tout à ce sujet, si le Seigneur le veut. Bon, d'abord, je voudrais dire ceci avant de l'oublier. N'allez jamais craindre le communisme. Le communisme n'est qu'un outil entre les mains de Dieu. C'est une entreprise impie. Tout comme le roi Nebuchadnezzar à l'époque, mais il l'a envoyé là-bas pour qu'il frappe Israël à cause de leur désobéissance. Alors que le prophète leur avait annoncé ce qui allait arriver, il leur avait dit de demeurer dans leur pays, de se souvenir de Dieu. Ils n'ont pas voulu le faire. Ils ont continué quand même. Et voilà, le roi est venu leur mettre la main dessus parce qu'il l'avait dit. Et c'est ce qu'il le ferait. Le communiste, c'est une chose qui... La raison pour laquelle le communiste est apparu, c'est à cause de la conduite illégitime de l'Église catholique. Outre-mer, en Russie, ils ont pris tout l'argent et ils ont amassé tout ça, un point c'est tout. C'est exactement à cause de ça qu'il y a eu le communiste. Quand le petit garçon a été ressuscité des morts là-bas en Finlande, les grands soldats communistes se tenaient là à faire les gestes de salut. Quand je suis passé, les larmes leur coulaient aux joues. Ils disaient, un Dieu comme ça, nous le recevrons certainement. Un Dieu qui peut ressusciter les morts, se tenir et tenir sa parole certainement. Voyez, mais pour ce qui est d'aller à l'église, sans plus, en visant comme le diable et tout le reste, comme le reste du monde, que ça ne produise rien, ça n'y croit pas. Et franchement, moi non plus, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a aucun passage de l'Écriture qui dit que le communiste gouvernera le monde. Mais il y a un passage de l'Écriture qui dit, et toute l'Écriture le dit, que c'est le romanisme qui le fera. Alors, ayez l'œil à cela. Regardez ce soir, regardez donc ce qui est arrivé hier soir même, ce sénateur du Kentucky, ce qu'il a dit du fait qu'un républicain a maintenant été élu pour représenter l'État du Kentucky. Il a dit, il est protestant et il n'en fait pas tout un plat. Et lui, un catholique, il devient audacieux au possible. Et vous souvenez-vous, il y a d'autres choses qui vont avec ça. Le temps des vierges folles, c'est ce que nous voyons, des choses qui ne s'étaient jamais produites, des choses que n'ont pas seuls des hommes, des enseignants qu'il y a eu tout au long de l'âge, n'auraient pas pu dire, comme nous le pouvons maintenant, parce que c'est maintenant qu'elles arrivent. Or, la vierge folle et les pentecôtistes hybridés, c'est la même chose, hybridés avec les choses du monde. Maintenant, souvenez-vous, je suis pentecôtiste, mais pas pentecôtiste par une dénomination. Ça, je proteste. Je suis pentecôtiste par une expérience. Il faut qu'on ait les méthodistes sont pentecôtistes, les baptistes sont des pentecôtistes, les catholiques sont pentecôtistes. S'ils ont reçu l'expérience de la pentecôtiste, vous ne pouvez pas organiser le la Pentecôte parce que c'est une expérience et c'est Dieu et non pas organiser Dieu. Bon, donc Jésus nous a dit que ces choses allaient arriver. Donc, il nous a annoncé ce qui allait se produire, que la Vierge folle se lèverait et les choses qu'elle allait faire et que les gens allaient réclamer à leur époque qu'ils voudraient avoir de l'huile, mais qu'ils viendraient trop tard, voyez? Maintenant, vous savez, les trois, là, les trois églises, il y a la prostituée, elle n'est pas venue chercher quoi que ce soit, elle est centrée sur sa personne, sur elle-même. Il y avait la vierge folle, qui est l'église protestante, il y avait l'épouse, voyez? Maintenant, voilà les trois niveaux de l'Église. Dans les derniers jours, maintenant, regardez bien, nous allons les présenter clairement à partir de la Genèse et les montrer ici, les situer dans l'Apocalypse, dans l'enlèvement, si le Seigneur le veut. Toutes ces choses ont l'air authentiques. La Pentecôte, ça a l'air authentique. Pensez, eh bien, moi, je fais partie de telle organisation pentecôtiste. Ça revient au même que si vous viviez dans une porcherie. Il n'y aura pas la moindre différence. Il n'y en aura pas. Ce n'est qu'un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Oui, peu importe de quoi vous faites partie, si vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu et que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, la raison, et si vous croyez pas à toute la parole de Dieu, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Le Saint-Esprit, quand vous entendez la vérité et que le Saint-Esprit ne vous conduit pas à elle, c'est qu'il y a autre esprit en vous qui vous en tient éloigné, donc l'Esprit que vous avez. Et vous, en vous n'est pas le Saint-Esprit. Oh oui. Bon. Et nous avons vu ensuite, nous disions, de même que Jannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, nous avons parlé de ça et de ces choses qu'il est arrivé au dernier jour. Bon. Et ce que nous avons cité en dernier lieu, c'était que Dieu avait fait chaque semence selon son espèce. C'est ça. Voyez, alors quand il a fait son homme à son image, c'était une semence de sa parole. Et quand Jésus a été fait chair, il était la chair de la parole de Dieu. Et quand nous recevons la parole de Dieu, alors nous devenons la parole de Dieu dans notre chair. Voyez, c'est dans cet état-là que devrait être l'Église. Bon. Et alors, après qu'il eut l'homme à son image à lui, il le créa à l'image de Dieu. Bon, après qu'il eut fait ça, maintenant, ne manquez pas ceci. Après que Dieu a fait son homme à son image à lui, par sa propre parole parlée, alors c'était là l'homme parfait. Mais ce qui a amené la chute, c'est quand il a tiré de lui un produit dérivé qui lui a fait une épouse. C'est ça qui cause les ennuis maintenant. Si vous étiez spirituel, vous l'auriez déjà saisi. Voyez? Voyez, ce n'est pas Adam qui s'est attiré des ennuis. Ce n'est pas Adam qui a douté de la parole. C'est son épouse qui a douté de la parole. Et ce n'est pas Jésus qui doute de la parole, car il était la parole. Voyez? C'est son épouse. C'est de là que vient l'hybridation. Elle n'est pas venue par Adam. Honte à vous qui ne voyez pas ça. Vous voyez? Ce n'est pas la faute d'Adam. Il n'a eu rien à voir là-dedans. Si la mort est venue par Adam, alors elle est venue par Dieu. La mort est venue par un croisement. La mort ne peut pas venir de la parole de Dieu. La mort vient par le croisement de la parole avec une dénomination, un credo, au lieu de Christ, un dogme, au lieu de la parole. Elle ne vient pas de la parole. La parole est la vie. Jésus a dit, mes paroles sont vie. Et l'Esprit vivifie cette parole, et alors, elle est vie. De la croiser avec quelque chose, c'est là que vient la mort. Et si Adam était la parole de Dieu, sa parole parlée, sa semence originelle, puisqu'il avait été le premier, alors par une création, alors son deuxième Adam, lui aussi a été produit par une création, par la parole parlée. Vous me suivez? Or, Adam n'a pas été séduit, mais c'est son épouse qui a été séduite. Christ aujourd'hui n'est pas séduit. La parole ne séduit personne. C'est l'épouse qui opère la séduction par la parole. Vous le voyez? Donc, il lui a donné une épouse, un type du deuxième Adam. Il a donné au premier Adam une épouse. Elle est tombée. Il a donné au deuxième Adam, à Christ, une épouse. Elle est tombée. C'est exact. Pourquoi? Elle n'est pas l'original. Elle est un produit dérivé. L'épouse, aujourd'hui, est un produit dérivé. Voyez, elle prétend être l'épouse. Mais ce qu'elle est, elle est composée du matériau de l'organisation et non de la parole. Avec une certaine quantité de paroles pour que ça donne un genre de produit dérivé, pour que ça donne quelque chose d'hypocrite. Ève a cru presque toute la parole, mais il y en a une partie dont elle a douté. Aujourd'hui, même acte 20, elle n'arrive pas au Matthieu 28, 19 à concilier ça avec acte 2, 38. Voyez, elle s'y perd. Et ça, ce n'est qu'un seul petit passage parmi des centaines. Donc, l'épouse d'Adam était un type de l'épouse du deuxième Adam. Or, l'épouse d'Adam j'ai coupé l'enregistrement. L'épouse d'Adam n'a pas su attendre. Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez et remplissez la terre. C'était quelque chose qui allait venir, une promesse. Elle n'était pas encore sa femme, parce qu'elle n'avait encore jamais vécu avec elle. L'épouse de Christ n'est pas encore sa femme. Le souper des noces doit avoir lieu. Vous saisissez? Remarquez, oh, ceci, c'est riche. Elle était pressée. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a croisé sa semence. Elle l'a mélangée avec la semence du serpent. Et à ce moment-là, elle a produit un... Qu'est-ce qu'elle a produit? Elle a produit un enfant de la mort. Un enfant par lequel elle a perverti tous les enfants qui sont venus après. Et à l'époque de Rome, quand l'Église de Jésus-Christ a été pervertie après sa naissance vierge à la Pentecôte où elle avait été donnée à Christ, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est croisée avec les dogmes de Rome. Et l'Église protestante a fait exactement la même chose. Elle ne sait pas attendre. Une femme qui serait fiancée à un brave jeune homme pur. Et avant qu'ils s'unissent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trouve enceinte de quelqu'un d'autre. Alors sa propre semence qui avait été promise, son propre corps qui avait été promis à son petit ami, à son mari par une promesse de mariage, se trouve remplie de la semence d'un autre homme. Quelle honte! Voilà exactement ce que Adam a trouvé. Voilà ce que Christ a trouvé. Elle n'a pas su attendre. C'est là le problème chez les gens d'aujourd'hui. Ils ne savent pas attendre que le vrai Saint-Esprit place l'Église en position. Il faut qu'il fabrique quelque chose, qu'il suscite quelque chose d'une manière artificielle, le signe initial, le parler en langue pour avoir plus de membres dans l'Église, toutes sortes d'âneries du genre, ou au lieu de s'attendre au Seigneur pour que se manifeste réellement la résurrection de Christ, qu'il se fasse connaître au milieu des gens. Elle ne sait pas attendre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée là-bas et elle a fécondé par le système des dénominations. D'abord, il y a eu les assemblées de Dieu, ensuite il y a eu les unitaires, et puis quoi encore après ça? Maintenant, la prétendue épouse est fécondée par toutes sortes d'âneries, un déshonneur. Les femmes ne prêtent absolument aucune attention à ce que dit la parole de Dieu, aucune, et les hommes non plus, ni même les prédicateurs. Et voilà ce qu'ils appellent une épouse. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est fécondée. L'épouse de Christ, la voilà enceinte du monde. Elle s'habille comme le monde. Elle agit comme le monde. De grandes églises, superbes, qu'est-ce qu'ils ont? On voit par là ce qu'elle est. Elle est du diable. C'est ce que Satan avait fait en premier lieu. C'était d'essayer d'ériger un beau grand royaume dans le ciel. Il a été jeté dehors à cause de ça, excommunié du ciel. C'est là qu'en est l'épouse contemporaine de Christ. Elle a été jetée dehors car elle a été excommuniée d'auprès de Dieu parce qu'elle est une prostituée, non une vierge. C'est profond, mais j'espère que vous saisissez. L'épouse d'Adam n'a pas su attendre. Au contraire, elle a mélangé sa semence d'une manière illégale. D'une manière illégale. Nous sommes censés croire la parole de Dieu et elle seulement. Maintenant, frère, ici, à l'écoute de la bande, voyez-vous pourquoi je combats pour cette parole, mot pour mot? Je vous l'ai dit, je crois qu'elle est la vérité de Dieu. Dieu a protégé cette Bible. Il faut qu'il juge le monde par quelque chose, par Jésus-Christ, qui est la parole, et cette parole a été faite chair pour devenir Jésus-Christ. Je laisse juste pénétrer cela. Souvenez-vous, la parole. Et maintenant, il retrouve son épouse dans un beau gâchis. Pensez-vous qu'il épouserait une chose pareille? Il est saint. Elle n'a pas su attendre. Illégal. C'est ce que Adam a trouvé. Maintenant, frères, sœurs, Regardez en arrière. Si vous regardez l'ombre de quelque chose, c'est l'expression même de la vraie image de ce qui va venir. Alors vous voyez, il fallait qu'Adam trouve sa femme enceinte. Et elle a dit, le serpent m'a séduit. Maintenant, je vais présenter les deux côtés dans quelques instants, si le Seigneur le veut. Voyez-vous, vous montrer qu'il est impossible qu'il en soit autrement. Donc, l'épouse d'Adam n'a pas su attendre. Au contraire, elle a pris les devants. C'est pareil aujourd'hui. Pour l'épouse d'aujourd'hui, elle veut fabriquer quelque chose. Gloire à Dieu, il faut qu'elle le suscite d'une manière artificielle sur l'estrade. Il faut qu'elle ait tout ça. Voyez, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fabrique quelque chose. Regardez où ça mène. Vous pouvez voir que ce n'est que du vent. C'est de la frime. Tout à fait exact. Ce monde serait embrasé par la puissance de Dieu et l'Église serait enflammée. Oh, qu'est-ce? Les morts seraient ressuscités et toutes sortes de choses se produiraient. Mais de quoi s'est-elle laissée ensemencer avant que Christ puisse aller vers elle, avant qu'il aille vers elle pour y planter sa propre semence? Qu'est-ce qu'elle avait reçu? Des semences d'ivraie, le monde, des semences dénominationnelles. Voilà pourquoi elle récolte sa moisson maintenant même. J'espère que vous ne vous vexez pas. J'espère que tout cela, finalement, je mets ma confiance en Dieu qui vous l'aura donné, voyez? Donc, elle a mélangé sa semence d'une manière illégale. Illégale par rapport à la parole. Qu'est-ce qu'elle essayait de trouver? Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce qu'elle voulait avoir? De la sagesse. De la sagesse. Et qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Elle a envoyé ses prédicateurs dans des écoles. Ils ont produit par incubation dans une machine la psychologie, toutes sortes de choses qui ne se trouvent même pas dans la Bible. Et elle est incubée, ses œufs. Et à ce moment-là, le produit qu'elle a obtenu, c'est un tas de gens qui vont faire des compromis surtout et refuser le message même de Dieu. Et elle le fait sans le savoir. Elle n'en sait rien. Elle ne croit pas. Elle ne pense pas être dans l'erreur. Ève non plus, elle ne pensait pas être dans l'erreur. Ève pensait être dans le vrai. Et si c'était un type de ce qui est ceci est l'antitype, il devra agir de la même manière que le type. Or, ça, c'est vraiment pour moi, c'est aussi simple que 2 fois 2 font 4. Maintenant, remarquez, ce qui est arrivé aux enfants d'Ève, le premier qui est né. Or, si Dieu a dit multiplier son épouse, à l'épouse d'Adam, et remplissez, multipliez et remplissez la terre. Ça, c'était la commission donnée par Dieu. Elle l'aurait fait. Et il l'aurait fait en s'unissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Adam allait venir vers elle, elle était déjà mère. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il est arrivé la même chose à l'Église de Christ, à l'épouse de Christ. Alors, nous allons remonter encore plus loin que ça, dans une minute. Remarquez, quand cette épouse, alors qu'est-ce qu'elle a fait? La première enfant qu'elle a mise au monde, c'était un enfant bâtard. Il était rempli de la mort. Il a causé la mort. Et tous les autres depuis, c'est la mort. Maintenant, vous voyez, forcément, c'était un rapport sexuel. Pourquoi êtes-vous en train de mourir? Ce n'était pas un rapport sexuel. Alors que Dieu avait donné une commission qui ne peut pas périr. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut pas faillir. Quand il dit multiplier, remplissez la terre, ça c'était le dessein de l'éternel de Dieu. Pour exécuter ça, vous ne pouvez pas mourir, en effet. C'est sa parole, vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre. Si cet enfant avait été produit comme il se devait, il n'y aurait pas eu de mort, mais elle n'a pas su attendre. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Vous ne voulez pas avoir quelque chose de fabriqué, de la frime, de pousser des cris, de sauter, de parler en langue ou quelque chose comme ça, au lieu d'attendre que la vraie parole de Dieu soit manifestée à travers l'épouse. Ce sont ceux de cette espèce-là, ceux qui reçoivent la parole, Ce sont eux la véritable épouse de Dieu qui produit des enfants. Ceux-là ne peuvent pas mourir. Un enfant que l'épouse produit par la parole ne peut pas mourir parce qu'il est la parole. Amen. Avez-vous saisi? Elle ne peut pas mourir parce qu'elle est. Cet enfant ne peut pas mourir parce qu'il est un enfant de la parole. Il est un enfant de la semence. Il est un enfant éternel. Alléluia! C'est exactement ce que Jésus-Christ était. Un enfant éternel créé par la parole. Il n'était pas obligé de mourir. Mais il l'a fait pour payer la dette. C'était le seul moyen de le payer. Personne d'autre ne pouvait le faire. Ils étaient tous nés par le sexe. Au gré du diable et de son plan à lui. Vous avez saisi maintenant? Vous voyez? Mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt parce qu'il est un hypocrite, un hybride. C'est exact. Il est né d'une union entre Satan et Ève. On aura beau appeler ça comme on voudra, c'était Satan et Ève. La parole originelle n'a eu rien à voir là-dedans. La parole originelle était la vie. Il l'a hybridé, ce qui a produit la mort. Et quand l'Église d'aujourd'hui, ceux qui se sont donné le nom de les pentecôtistes, qui se sont donné le nom de baptistes, ou le nom qu'ils voudront, quand ils hybrident cette parole avec des dômes, cela produit un enfant mort. Elle ne peut pas avoir la vie en elle. Elle est morte. Et ses enfants sont morts. Dieu a dit, « Je vais jeter un lit de mondanité et je ferai mourir ses enfants. » C'est Dieu qui l'a dit dans l'Apocalypse. Combien savent que c'est vrai? La mettre sur un lit de mondanité. Elle y est et fait mourir ses enfants par le feu. Nous pouvons observer qu'est-ce qui est arrivé à l'ivraie qui est parmi le blé. Elle sera brûlée et vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Elle est la vérité. Parfois, tout le millimélo que vous avez, on pourrait en faire quelque chose de faux. Mais si vous le gardez aligné comme il faut, elle suivra son cours une, deux, sans arrêt. Jeter sur un lit de mondanité ne produira rien d'autre que des enfants morts. Donc, si une dénomination ne peut produire qu'un enfant hybride, pourquoi donc voudriez-vous en faire partie? Alors, frère, c'est pour ça que je suis contre. Elle est une prostituée dès le départ. La Bible a dit qu'elle l'était. Une impudique, ce sont des termes clairs, mais je vous ai dit que j'allais parler clair et net aujourd'hui. C'est ce qu'elle est. Elle se livre à des fornications spirituelles en recevant des dogmes, des credos au lieu de la parole. Et elle enseigne à ses enfants à faire la même chose. Donc ses enfants sortent morts de son sein. Elle doit mourir, c'est tout à fait vrai. Et de même, tout homme, écoutez, aussi sûr que tout être mortel qui sort du sein d'une femme mourra, de même toute personne à qui elles auront donné naissance mourra. Parce qu'elle est une hybride, illégitime. Et ses enfants sont illégitimes. C'est exact. J'espère que ça ne vous passe pas au-dessus de la tête. Or, Jéhovah a eu une épouse à un moment donné. Adam a eu une épouse. Jésus a eu une épouse. Jéhovah a eu une épouse. Saviez-vous ça? Il a été obligé de la répudier. Elle est devenue une prostituée, alors il l'a répudiée. C'est exactement ce qu'il a dit. Elle est devenue une prostituée. Elle s'est prostituée. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça? J'aurais aimé qu'on ait le temps de le lire. J'arriverai peut-être voir une partie tout à l'heure. Pourtant, à l'instant, c'était du temps de Samuel. À l'époque où Israël avait un roi, un Dieu, et où elle était vierge, elle allait produire quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à regarder autour d'elle. Elle a vu que les autres nations avaient leur roi. Alors, elle a voulu être comme les autres. Vous, les rébus de la Pentecôte, c'est exactement ce que vous avez fait. Ce vieux prédicateur qui est ici, qui est presque 100 ans aujourd'hui, quand la Pentecôte a percé, à l'époque, pas question qu'on leur parle de s'organiser, pas du tout. Ils refusaient d'écouter ça. Ils appelaient ça des choses du diable et ces hommes avaient raison. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il a fallu que vous fassiez comme les autres églises. Il a fallu que vous fassiez une organisation. Ensuite, comme il le disait, vous avez élevé des barrières entre vous. Vous vous êtes mis à enseigner. On ne doit pas enseigner ceci. Gloire à Dieu, alléluia, c'est comme ceci. Et à sauter en l'air et à parler en langue. Ils disent, inscrivez le nom comme membre ici, là. Il n'a pas été baptisé comme il faut, ni de l'eau, ni de l'esprit. Il est dans l'erreur. Et ses fruits le prouvent. Cette semence n'est pas de l'espèce qui lui permette de croître comme il le faut. Dieu soit béni, frère. Nous allons t'imposer les mains ici et faire de toi un ancien. Je vais te dire ce que tu. Nous allons faire prendre une telle extension à cette organisation qu'elle va être plus grande que les assemblées. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Lisez l'histoire du Pentecôte et vous verrez si c'est vrai ou pas, ou c'est celle de n'importe quelle église. Les baptistes veulent surpasser les méthodistes. Les méthodistes veulent surpasser les luthériens veulent surpasser les catholiques. Tout le monde veut surpasser quelqu'un. Voyez, c'est ça. C'est l'esprit de l'organisation. Jésus dit, il n'y en aura que peu qui seront sauvés. Étroite est la porte et resserré le chemin. Il n'y en aura que peu qui les trouveront. Que peu. S'il a dit peu, c'est la parole de Dieu. Cette semence-là, il y en aura peu. Il n'y en aura pas des dizaines de millions, de milliards, de milliards. Il n'y en aura que peu qui les retrouvent. Ceux qui ont été prédestinés, ils l'entendent. L'appui de la première saison a maintenant été dispensé. Donc, Jéhovah a une épouse qu'il aimait, mais elle s'est prostituée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Aux autres puissances du monde, et avec ce vieux prophète oint consacré, qu'est-ce qu'il a fait? La parole du Seigneur, viens au prophète. Il est allé, ce vieux prophète Samuel, il s'est avancé vers lui. Il a dit, « Mes enfants, rassemblez-vous autour de moi une minute. Je veux vous parler à tous. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir un roi? Jéhovah est votre roi. Pourquoi est-ce que vous voulez avoir un credo? La Bible est votre credo. La Bible est la vérité. Les credos sont des mensonges. Vous êtes mort, fait de main d'homme. Le credo des apôtres, montrez-moi ça dans la Bible. A-t-on jamais entendu parler de choses pareilles? Je crois à la communion des saints. Toute personne qui croit à la communion des saints est un spirit. La communion des morts, il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, et c'est Christ. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles et ressuscité des morts. Les protestants avalent ça et le Foucault aussi, je ne sais quoi encore, tous les catéchistes des églises aussi, ils avalent ça tout rond, c'est pareil, ils aiment ça, c'est sûr, comme le reste du monde. Oh, vous savez, dans le temps, on était pentecôtistes, on se tenait là-bas, au coin, on tambourin à la main, et on priait, et les femmes étaient là, leurs longs cheveux qui descendaient, elles louaient Dieu et tout ça. Oh, miséricorde, vous avez de bon sens pour ne pas faire ça. On vous rit raisonner, un vrai chrétien, c'est ce qu'il ferait. Vous tenir là avec une touffe de cheveux courts en l'air comme ça, une grande peau de peinture appliquée sur le visage comme ça, et une robe, on dirait une saucisse de Francfort épluchée. Vous sortez comme ça et vous vous tenez là à déclarer une sainte de Dieu. Vous savez qu'il en est autrement. Et le monde aussi le sait qu'il en est autrement. Honte à vous. Vous avez intérêt à vous tenir loin de ce coin-là. Si vous n'avez rien de plus que ça à présenter, je ne critique pas. Je ne suis pas hors de moi. Je vous dis la vérité et vous le constatez dans les jours à venir, là. Mais c'est toujours la même histoire. Ça se passe toujours au-dessus de et ils le verront seulement après, une fois que c'est passé. C'est ce qu'ils ont fait chaque fois. Ils l'ont fait cette fois encore. L'épouse de Jéhovah a voulu se prostituer, suivre les autres peuples, faire comme les autres. C'est ce que l'épouse de Jésus a voulu faire. Le vieux Samuel, celui à qui venait la parole, à qui la parole vient à elle, au prophète, qu'en est-il? Le vieux prophète s'est avancé là. Il a dit, « Bon, un instant, mes enfants, pourquoi est-ce que vous voulez partir en quête de ça? » Il a dit, « Vous ai-je déjà dit une chose au nom du Seigneur qui ne soit pas accomplie? » Vous vous en souvenez? Combien ont déjà lu ça? Bien sûr que vous l'avez lu. « Oh, vous ai-je déjà dit une seule chose au nom du Seigneur qui ne soit pas accomplie? En plus, suis-je allé faire de grandes campagnes ou quoi encore, vous prendre tout votre argent, l'ai-je fait? » Il a dit, « Vous ai-je déjà réclamé quoi que ce soit? » C'est de Samuel que je parle maintenant, oui. De quelqu'un qui a la parole du Seigneur est venu. Il a dit, vous ai-je déjà demandé de fournir tant et de faire telle et telle chose? Non, ils ont dit, non, tu n'as jamais fait ça. Tu ne nous as jamais dit quelque chose qui n'était pas vrai. Il a dit, alors pourquoi vous donc voudriez-vous partir en quête de ça? Ils ont dit, Samuel, tu as tout à fait raison, mais nous en voulons quand même. C'est exactement ce que l'Église pentecôtiste a fait. C'est pour ça que je ne me joins pas à eux, c'est sûr. Je veux rester vierge devant Dieu avec sa parole, je n'ai pas besoin d'avoir de grands spectacles et des choses comme ça. J'ai refusé ça. Je ne voudrais pas me retrouver lié. Ce n'était pas ma sagesse à moi. C'était la sagesse de Dieu. Si j'étais obligé d'aller pour pouvoir, que je sois obligé de tourner autour des gens et du diable et de leur dire, oui, je suis obligé de demander tant pour une émission de télévision. Je suis obligé de demander tant pour ceci. Il faudra que vous payiez comme Pour ça, moi aussi, je serais obligé de tirer de ce genre de ficelle-là, mais je vous ai jamais dit une chose au nom du Seigneur qui ne soit pas accomplie. Je ne vous ai jamais dit autre chose que la parole, soyez-en juge. Vous ai-je déjà réclamé quoi que ce soit? Non, monsieur, non, c'est Dieu s'est occupé de tout ça. Je ne sais pas de grands programmes à faire soutenir. Je n'en voudrais pas. Tous ceux qui sont à Dieu entendront Dieu. Il suffit de sentir conduire par l'Esprit, aller quelque part et faire quelque chose et de faire ça. C'est tout ce qu'il faut. Tenez-vous-en à ça. Pas un grand programme qui rapporte beaucoup d'argent dans lequel on a investi des millions de dollars et des millions et des millions et des millions. Et maintenant, certains ont pris de l'extension. Ce sont des millions et des milliards de dollars qui sont investis et je ne m'en fais aucun scrupule de critiquer. C'est une critique bien méritée. Je ne veux blesser personne, mais j'aimerais mieux blesser un homme que de blesser Dieu. Si on a reçu de lui une commission, qu'on a été envoyé là pour faire des choses et qu'il l'a prouvé au milieu des gens, alors vous devriez écouter cela. Je vous dis la vérité. Dieu le prouve que c'est la vérité, seulement par ses signes, mais il le prouve par sa parole que c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. Donc, l'épouse de Jéhovah s'est prostituée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a produit une tripotée d'enfants illégitimes de nouveau, pas vrai? Nous savons que c'est la vérité, au point même qu'elle a été amenée par le roi Nebuchadnezzar et tout. L'épouse de Christ a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne sait pas attendre. Oh non! Oh non! Elle ne sait pas attendre, c'est tout. Il faut qu'ils fabriquent quelque chose. Ils ne savent pas attendre que le Saint-Esprit vienne et qu'ils entrent dans l'Église. Voyez, il faut qu'il y ait plus de gens dans leur dénomination. Si les choses étaient demeurées telles qu'elles étaient à cette époque-là, il y a 100 ans ou 50 ans, quand la Pentecôte de ce dernier jour, on était à ses débuts, quand la parole a été prêchée au début, si les choses étaient demeurées telles qu'elles, probablement qu'elles n'auraient pas plus de 50 membres aujourd'hui. C'est vrai, mais ils seraient lavés par le sang, ils auraient la puissance de Dieu en eux. Le monde serait secoué sous l'impact prodigieux de la parole faite chair, prononcée mot pour mot. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. C'est vrai, ce ne sont plus que des absurdités, c'est une pierre de risée, en disgrâce auprès du monde, en disgrâce auprès de Dieu. Je suis entré dans un établissement, nous étions trois frères, deux frères et moi, nous sommes entrés dans cet établissement tout près de Springfield, dans le Missouri. L'autre matin, pour y prendre le petit déjeuner, nous revenions de l'Arizona et il y avait là une petite dame dont le frère Wynne m'a fait remarquer qu'elle ressemblait à notre sœur Collins, blonde. Son épaisse chevelure ramassée derrière la tête, il a dit, « N'est-ce pas qu'elle ressemble à la femme de frère Wilbur Collins? » J'ai dit, « Oui. » Et une autre dame plus âgée est arrivée. J'ai dit, « Ça doit être sa mère. Regardez, elle a beaucoup de cheveux. » J'ai dit, « On est tout près de l'église de l'Assemblée de Dieu, du siège de l'Assemblée de Dieu. C'est là pour ça qu'elles sont comme ça. » Il y avait beaucoup de jeunes sœurs assises là avec cette coiffure hydrocéphale, les cheveux gonflés comme ça. C'étaient les élèves. Il y avait le petit Ricky et tous les autres qui étaient là, vous savez, à faire toutes sortes de singeries. Ils avaient toutes leurs bibles sous le bras, alors nous les avons observés jusqu'à ce qu'ils soient tous sortis. Ils ricanaient, rigolaient, faisaient toutes sortes de singeries, exactement comme le jeune moderne. C'est ça. C'est ça la récolte de la Pentecôte qu'on aurait demain s'il y avait un lendemain. Pourquoi? 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 Parce que ce sont ces semences-là qui ont été plantées. Tout à fait vrai. Quand elle est sortie, qu'elles sont tous sorties, cette petite dame est revenue nous voir. Elle a dit, « Puis-je vous être utile à quelque chose? » J'ai dit, « Je voudrais vous poser une question. » Oui, monsieur. J'ai dit, « J'ai fait comme si j'étais un étranger. J'avais pensé qu'elle aurait pu nous reconnaître. » J'ai dit, « N'est-ce pas un institut biblique de l'autre côté? » Elle a dit, « Oui, monsieur, c'est ça. » J'ai dit, « Ça doit... » Vous amenez beaucoup de clients. Il y avait frère Sutman qui était là et frère Bankswood, deux administrateurs de l'église. Et j'ai dit, elle a dit oui, effectivement. J'ai dit, vous y êtes rattaché, je suppose. Elle a dit non. Elle a dit, je suis désolé, je n'y suis pas rattaché. J'ai dit, ce qui m'a porté à penser ça, ce sont les beaux cheveux longs que vous avez. C'est votre mère, je suppose. Elle a dit non, monsieur. Elle a dit, elle travaille ici, c'est tout. Elle a dit non, Elle a dit, j'aime les cheveux longs et j'ai une petite fille. Je lui fais porter les cheveux longs elle aussi. Elle a dit, mon mari aime les cheveux longs. J'ai dit, oh, que Dieu le bénisse. Et alors, j'ai dit, c'est bizarre, celle qui était ici et que c'était les élèves de ces jeunes filles avaient les cheveux coupés, toutes gonflées comme ça, et à la façon de la première dame du pays, oui. Quand nous sommes sortis, j'ai dit, merci, nous sommes sortis, j'ai dit, cette femme a été placée là par Dieu pour servir de réprimande à cette bande d'enfants bâtards qui est de l'autre côté de la rue, c'est vrai, illégitime.
That's right, illegitimate.
Ils suivent la voie du monde. Combien de femmes qui ont suivi Jézabel, la première dame de ce pays là-bas? Combien d'entre elles sont au ciel d'après vous ce soir, aujourd'hui? Voyez, voyez. Les choses du monde, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Voilà, qu'est-ce que c'est? La fine fleur de la moisson de Dieu, de la Pentecôte, le plus grand mouvement du pays. Voilà, c'est ça l'épouse. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Oh, elle va fabriquer en sautant un peu sur l'estrade. Je ne me moque pas de ça. Il n'y a pas de mal à ça. Elle va fabriquer autre chose. Pourquoi? Pour faire entrer des membres dans l'Église. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne sait pas attendre. C'est tout, vous voyez? Elle ne sait pas attendre que ce soit Dieu qui le fasse. Il faut qu'il fasse entrer des membres quelque part. Alors, ils leur disent, il faut que vous fassiez ça. Et les voilà partis, voyez? Voilà la semence qui apparaît tout de suite. Il faut que vous le fassiez. Je suis missionnaire. J'ai vu les Africains prendre le sang d'un animal et le verser sur eux comme ceci. Ils étaient complètement nus, les hommes et les femmes. Ils se mettaient de la peinture sur le visage. C'est de là que c'est venu. La peinture, c'était une marque caractéristique des païens. Ça ne nous convient pas à nous, les êtres humains. Les chrétiens, les croyants, ça ne s'était jamais vu, ça. Il n'y a qu'une seule femme dans toute la Bible qui se soit maquillée. C'était Jézabel, un démon. Et donc, ils se mettent de la peinture sur le visage, de grands trucs à leurs oreilles, comme des blocs de bois, les zoulous. C'est ce que c'est, un bloc de bois pour que la chair de l'oreille pende jusque-là. Parfois, ils se fendent les lèvres, ils se les étirent autant qu'ils le peuvent. Ils trouvent que c'est beau. Ils se mettent du sang et sur la poitrine, le long des jambes et tout ça. Et avec ça, ils vont se faire des rayures comme ça, celle d'un zèbre. Et ils poussent des cris, ils dansent dans l'esprit, ils parlent en langue, ils adorent les démons. La preuve du Saint-Esprit, j'ai été là-bas en Inde alors qu'il y avait des fakirs qui marchaient dans les chardons ardents. Et tout ce que je sais, c'est que c'est la vérité. Il y avait là une idole immense avec aux oreilles des rubis comme des boucles d'oreilles et des choses comme ça. Et ils se livrent à des mortifications, ils s'enfoncent des choses dans la chair, ils se donnent des coups, ils se couvrent leurs lèvres, ils sont... S'ils ont menti, s'ils font des pénitences, ils se transportent les lèvres ici à un sable, ils se transpercent le menton, ils passent ça au travers du nez et ils le font ressortir comme ça. Ils prennent de grands hameçons auxquels sont accrochées des espèces de boules de sapin de Noël qui remplissent d'eau. Ils s'en fixent des milliers partout sur leur corps. Ils s'enfoncent dans la chair. Ils vont là, ils dansent autour de ces idoles comme ça. Ils tuent une chèvre. Et ils se livrent à leur culte comme ça, ils marchent sur des chardons ardents et sans la moindre brûlure. Certains d'entre eux vont les pentecôtistes, essayent donc de faire ça. Mais ça s'est fait! Les enfants hébreux, par contre, eux, ce n'était pas du tout pour tenter de... Les seigneurs ton Dieu, ils ont tout simplement été jetés dedans. Ils n'ont pas cherché à fabriquer quelque chose. C'est ça leur problème. C'est les pentecôtistes aujourd'hui. Ils fabriquent quelque chose. Ils ne savent pas attendre. Oh Dieu, ils ne savent tout simplement pas attendre. Alors, ils commettent adultère. Amen. Ivrer, fabriquer quelque chose. Qu'est-ce que ça produit? La même chose que ce qui a été produit la première fois par la première épouse qui n'a pas pu su attendre. Elle a produit la mort par un enfant bâtard. Et nous sommes tous ses enfants. Mais Dieu est venu dans la chair pour nous donner une autre naissance, pour nous ramener à l'état originel de fils et de filles de Dieu. Voyez? Voilà. Le sperme de vie d'Ève ne s'est jamais réalisé. Jamais. Pourquoi? Elle l'a mélangé, elle l'a empêché de se réaliser au lieu que ce soit Adam qui vienne vers elle et la prendre pour une épouse au temps fixé, tout comme Christ serait venu vers ce groupe, Christ serait venu vers son Église. Il a promis de le faire. Dieu avait promis de les multiplier. Mais il devait attendre le temps de Dieu. C'est ça qu'il y avait aujourd'hui. Ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils veulent recevoir autre chose. Et donc, le diable, il a la sagesse. Il peut leur fournir une organisation, être plus important que les autres. Maintenant, voyez-vous pourquoi je suis contre ça? Bien sûr, je suis contre ça avec tout ce qu'il y a au-dedans de moi. Tant que la parole sera au-dedans, elle sera toujours contre ça. Dieu est contre ça. Dieu a dit qu'il était contre. C'est vrai. Elle n'a tout simplement pas su attendre. Alors, le sperme d'Ève ne s'est jamais réalisé. Hybridé avec le mensonge de Satan, sa charmante épouse est devenue corrompue et l'épouse de Christ a fait de même. L'épouse, qu'est-ce qui l'avait corrompue? Là, l'épouse d'Adam, c'est ce qu'elle s'en était pas tenue à la parole de Dieu, pas vrai? Je vous pose la question. Or, si ce n'était pas ça, ne le dites pas. Mais si c'est bien ça, dites-le. La raison pour laquelle celle de Dieu, la raison pour laquelle l'épouse d'Adam, voilà les trois, Adam, Christ, Dieu. La raison pour laquelle l'épouse d'Adam n'a jamais donné naissance comme elle aurait dû à l'enfant de la vie, c'est parce qu'elle a été incrédule à l'égard de la parole de Dieu. Si c'est vrai, dites Amen. La raison pour laquelle la femme de Jéhovah a été répudiée ou son épouse, c'est parce qu'elle a rejeté la parole de Dieu, le prophète, pas vrai. La raison pour laquelle l'épouse de Christ a été répudiée, qu'il a divorcé d'avec elle, c'est parce qu'elle a rejeté la parole de Dieu comme Ève l'avait fait, comme les autres l'ont fait. Exactement. Toutes des prostituées, toutes corrompues, leur mari n'a pas pu aller vers elles. Elles étaient déjà fécondées avant que leur mari aille vers elles. Oh Dieu, ça fait vraiment pitié à voir. Imaginez un jeune homme qui va vers une femme et la trouve avec la semence d'un autre homme en elle. Quelle affaire! C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Adam a fait, c'est ce que Christ a fait. Oh oui. Elle ne s'en est pas tenue à la parole, ce qui a produit un état d'hybridation. C'est ça qu'Israël a fait, vous voyez où elle en est. C'est ce que l'épouse de Christ a fait, vous voyez où elle en est. Elle se trouve dans le même état que les autres. L'épouse pentecôtiste de Christ a fait la même chose. Elle ne peut pas produire des enfants spirituels de la parole car elle est elle-même hybride. Comment pourrait-elle le faire alors qu'elle s'est hybridée avec les dénominations? Elle s'est jointe à elle déjà et tout. Elle est exactement comme elle. Elle fait partie du conseil des églises et tout le reste. Elle est tout aussi hybridée que les autres. Comment pourrait-elle le faire? Elle ne le peut pas. Bon. J'ai tellement de choses à dire, je suis vraiment obligé de donner en vitesse. Je voudrais prêcher sur chacun de ces points-là. Voyez maintenant, regardez bien. La véritable épouse. Alléluia. Il y en aura une. Pourquoi? Elle a été prédestinée. Et elle ne formera pas une dénomination parce qu'elle est prédestinée. Voyez, elle n'a pas à s'en faire à cause d'une dénomination. Elle a été prédestinée déjà à prendre cette position. Regardez, comme Marie. Je veux que vous saisissiez ceci maintenant et que ça ne vous échappe pas. Êtes-vous prêts? Dites Amen. Quand Christ viendra vers son épouse, elle sera vierge comme Marie l'était. En effet, Dieu ne fera pas sortir Christ du sein d'une prostituée. Il n'en fera pas sortir l'épouse non plus. Il ne peut pas faire sortir sa parole d'une prostituée de sa parole. Ce sont des mots terribles, ça. Mais c'est la Bible qui le dit. Je dis ce qu'elle dit parce que c'est. Il faut que ceci soit bien compris. La véritable épouse qui a fait ses preuves, elle aura comme mari un sein vierge pour être l'épouse de la parole, c'est-à-dire de Christ. Quand Christ, la parole, viendra vers l'épouse, elle sera comme lui, vierge par la parole. Oh Dieu! J'espère que c'est reçu, frère Neville. Je voyais. J'espère que vous comprenez. Qu'est-ce qu'il était? La parole de Dieu. Il avait sur son vêtement un autre écrit, la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Il est Dieu, il est Dieu. Et Dieu est la parole. Et quand son épouse viendra, elle sera le même produit que lui est. Vierge! Est-ce que Christ a fait partie d'une dénomination? Est-ce que Jéhovah l'a fait? Son épouse non plus. Elle est une partie de lui. Elle n'a pas besoin de dogme. Elle n'en acceptera aucun. Elle sera absolument vierge. Comment? Par la parole. Amen. Elle ponctuera chaque parole de Dieu dit d'un Amen. Amen. Oh, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Oh là là, voilà. Elle ponctuera la parole de Dieu. Elle aura un sein vierge. De quoi sortira-t-elle d'un sein vierge? La parole. De quoi Jésus est-il sorti? D'un sein vierge. Vous voyez? Quand Adam est allé vers sa femme, elle était enceinte. Elle avait fait quelque chose. Elle était mixte, elle était hybridée. L'enfant était mort. Mais quand Joseph est allé vers son épouse à lui, elle avait été fécondée. Mais par la vie, la femme d'Adam ou l'épouse d'Adam, quand Adam, avant leur union, tout comme Joseph et Marie, tout comme Christ et l'Église maintenant, vous le voyez, n'est-ce pas? Voyez, Adam et Ève, avant leur union, elles avaient été fécondées par la semence corrompue du serpent. Et quand Adam est allé vers sa femme, il l'a trouvée fécondée par la mort. Voyez, la mort, comment? Morte spirituellement et physiquement. Par contre, quand Joseph, l'être humain, est allé vers sa femme, à lui, gloire, j'ai du mal à retenir ça, elle avait été fécondée par la vie, la parole de Dieu en chair dans son sein. Ramenez cette parole parlée, ramenez cette parole de Dieu qui a été ici, la parole venue à travers les seins d'un être humain. Dieu le fera de toute manière. Il l'a prononcé. Il faut qu'il en soit ainsi. Amen. C'est ça, notre Dieu. Oh, c'est riche. Si vous pouvez le digérer, si vous pouvez le recevoir, c'est là. Quand Adam est allé vers sa femme à lui et qu'il l'a trouvée fécondée par la mauvaise semence, quand cette semence-là est morte, quand Joseph est allé vers la sienne, elle était fécondée. Or, pourquoi cette fécondation directement différente? C'est parce que la femme d'Adam avait douté de la parole, pas vrai? L'épouse de Joseph a cru la parole. Voilà la différence. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la parole. Oh, cette précieuse parole. Voilà. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Voilà mon appui. En plein là, que toutes les dénominations et tout le reste tombent, qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire, c'est sur la parole que je me tiens. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Voilà pourquoi j'ai attaqué violemment les dénominations. Ils disaient bien, il n'est qu'un... Ils sèment la division dans les églises. Ils ont dit la même chose de notre Seigneur, voyez? C'est ce qu'ils disent chaque fois, voyez? Donc, maintenant, il l'a trouvé. Christ vient vers son épouse à lui. Il la trouve dans quel état? Même chose. Pourquoi? Au début, quand elle a commencé. Maintenant, écoutez, je ne veux pas que vous manquiez cela. Au début, quand elle a commencé, elle était vierge. Tout se serait bien passé pour elle à continuer comme ça. Cette église primitive dans le temps, c'était merveilleux. Dieu lui avait donné une épouse. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Si vous connaissez l'histoire, voilà qu'en 606, elle va là-bas et elle se fait féconder par des dogmes romains, une organisation, et à partir de là, cette vieille mère prostituée dont la par la Bible a donné naissance à des églises, et c'était des impudiques. Et ce qui est une prostituée, ce sont les églises protestantes, en effet, elles sont toutes nées d'elles, elles ont toutes adopté la même chose qu'elles, l'organisation. Maintenant, voyez-vous pourquoi je suis contre ça? Très bien. Donc, pour qu'il y ait naissance de la parole et qu'il faut, c'est Christ, et non d'être corrompu par les dénominations. L'église primitive, pas de dénomination, uniquement la parole irriguée par l'esprit. Frère, le Dieu a déposé là la parole comme ça, et le Saint-Esprit l'a irriguée. Voilà, elle est partie. Il a produit des enfants, certainement. Mais cette église-ci ne peut pas le faire. Elle est trop imprégnée de sa dénomination, voyez. Elle ne peut pas le faire. Elle est mélangée avec le monde. Regardez ce qu'elles ont fait maintenant. Maintenant. Qu'en est-il? Dieu a confirmé sa parole à travers son corps. Pas vrai? Ensuite, elle s'est prostituée comme la femme d'Adam l'avait fait en Éden et comme la femme de Jéhovah l'avait fait à l'époque de Samuel en se donnant un roi. Elle avait divorcé d'avec Dieu, son fiancé, et d'avec sa parole et d'avec son prophète, son porte-parole, et elle s'était prostituée comme les autres nations. Et Dieu a divorcé d'elle. d'avec elle. Il a fait la même chose aujourd'hui. C'est le même acte. Les fils de l'épouse commettent l'adultère. Voyez-vous, l'épouse, le Fils de Dieu, sont épouses de la Pentecôte qui était vierge par la parole, s'est prostituée et a commis adultère, tout comme l'avait fait la femme d'Adam, tout comme l'avait fait la femme de Jéhovah. Voilà la femme du Fils qui se prostitue, qui commet adultère avec les dieux romains, des dieux au pluriel. Et par amour pour ses amants, les dieux romains, elle a essayé de prendre son propre mari, de le partager en trois pour faire plaisir à ses amants. Que Dieu fasse miséricorde. Ah. Bien sûr, ils ont des centaines de dieux. Oh, bien sûr, Astarté, le dieu soleil, et les Baals, les dieux soleil, et la reine du ciel, et toutes ces choses. Donc, l'épouse, pour faire plaisir à ses amants de mauvaise vie, Dieu n'a-t-il pas parlé dans les cantiques de Salomon? N'a-t-il pas dit que sa femme n'était rien d'autre qu'une prostituée, qu'elle était toujours prête à s'offrir, qu'elle se donnait tous les amants qui venaient vers elle? Et je parle clair et net, mais c'est ce que la Bible dit. Tous les hommes qui voulaient fricoter avec elle pouvaient fricoter avec elle. L'épouse de Christ a fait la même chose. Elle s'est abandonnée à toute la vieille habitude sale, souillée de toutes les organisations qu'il y a eu. Elle fait la même chose. Je vais être critiqué pour cela. Ça ne fait rien. Je vais être béni pour cela aussi, car ce sera la vérité. C'est la vérité de Dieu, en effet. Il veut que ce soit dit, et là, je fais de mon mieux pour le dire, voyez? Elle a essayé de faire plaisir à ses nombreux amants. C'est ainsi qu'elle a hybridé, qu'elle a essayé d'hybrider la parole avec ses amants. Alors, c'est comme ça. N'allait pas marcher. Alors, elle a dit, on va dénoncer cela. Et elle a forgé sa propre parole. Maintenant, elle affirme être elle-même la parole. Mais que les catholiques ou que les protestants ne servissent pas de faire la reproche aux catholiques parce qu'eux-mêmes font la même chose dans l'assemblée de leurs églises à eux. Ils se prostituent. Ce n'est pas étonnant qu'elles soient appelées des impudiques. C'est dur à entendre, n'est-ce pas? Ça vous écorche vif, mais c'est ce qu'il faut faire à un moment donné pour vous réveiller, c'est vrai. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a quitté Jésus, le mari et parole. C'est comme Samuel. Ils ont quitté Samuel, ils ont pris Saül. Ils ont quitté le prophète, loin de la parole, ils ont pris un roi avec un sceptre. Alors qu'elle aurait fini par l'avoir, le roi, le sceptre, dans le millénium. Mais maintenant, elle a rejeté. Il est allé chercher une épouse parmi les nations, pas vrai? C'est la parole. Donc, elle a quitté Jésus, la parole. Jésus, la parole, et s'est mariée avec un autre homme appelé le pape, avec des dogmes. Maintenant, elle n'a plus Jésus, elle a un pape. Maintenant, nous n'avons pas l'Église protestante, n'a pas de Jésus. Elle a une dénomination, même chose, une image à la bête. Alors, elle ne peut pas donner une naissance parole à ses enfants, à aucun d'eux. Elle est elle-même une prostituée. La Bible dit, elle tenait à la main une coupe et elle répandait sa doctrine chez les gens, ce qui était une abomination, les impuretés de sa fornication. La fornication, qu'est-ce que c'est? C'est de mener une vie impure. Et ce qu'elle dispense aux gens comme doctrine, ce sont les impuretés de sa fornication. Les rois de la terre et tout, ils se sont enivrés du vin de sa fornication. C'est tout à fait vrai. Regardez-les. Mon gars, il vous couperait la gorge en moins de deux à cause de ça. Pas seulement les catholiques, mais les protestants aussi. Écoutez, vous les méthodistes, qui a tué Joseph Smith? Maintenant, poussez donc vos cocoricos. Je ne crois pas à sa doctrine, d'accord, mais je ne crois pas à la vôtre non plus. Ça ne s'est pas passé tout là-bas, mais c'est à cause de ça. Joseph Smith avait le droit de prêcher sa religion ici dans ce pays, tout autant que vous. Mais vous l'avez tué ici dans l'Illinois, vous l'avez abattu sans aucun motif, parce qu'il avait quelque chose d'un peu différent après que Pourquoi vous poussez les hauts cris contre l'Église catholique? Sortez de ce ramassis d'absurdités. Vous, les méthodistes destinés à la vie éternelle, John Wesley se retournerait dans sa tombe. Agir comme ça, assurément. John Wesley n'a jamais fondé une Église pareille. C'est une bande de Ricky et d'Elvis qui l'ont fait après la mort de John. C'est vrai, ce n'est pas John Wesley. Ce ne sont pas les vieux pentecôtistes du début qui auraient jamais produit le résultat que nous avons maintenant. C'est le même groupe après leur mort, c'est vrai. Jésus-Christ n'aurait pas fondé quelque chose comme ça que nous avons maintenant, qui se donne le nom de Pentecôte, et le Saint-Esprit non plus, mais c'est quelque chose que vous avez maintenant qui a pris sa place. Mais bon, le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas tuer. Il va prendre une épouse. De toute manière, amen, il va en prendre une. De toute manière, il a dit qu'il le ferait. Il l'a prédestiné. Il a quitté Jésus, son mari, parole, pour se marier avec un pape. Alors, elle ne peut pas donner une naissance spirituelle. Bon, elle peut donner une naissance dénominationnelle, des semences. De ça, elle en a tout plein. Elle ne peut pas donner une naissance spirituelle en étant une prostituée. Tout ce qu'elle peut donner, c'est une vie dénominationnelle et bien du bourrage de crâne. L'Église catholique elle-même, elle se fonde sur quelques superstitions tirées du christianisme et tout un bagage de romanisme. Et l'Église pentecôtiste est aussi mal en point de sauts et de cris et de parler en langue et d'autres cas. Quand on vient au fait, ils ont un tempérament colérique capable d'affronter une scie circulaire et vous mettre à la porte de leurs assemblées. Dieu aurait beau venir là et ressusciter les morts, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chasseront si vous n'êtes pas partie de leur organisation. Maintenant, cette vieille mère prostituée, je reviens un instant, elle prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés, mais on ne vous juge pas d'après vos prétentions, on ne vous reconnaît pas à vos prétentions, on vous reconnaît à vos œuvres. Comment pourrait-elle pardonner le péché? Regardez-la. Quand Jésus a fait la même chose, ils ont dit, « Déclarez-moi coupable, montrez-moi en quoi je suis incrédule à l'égard de la parole. » Elle prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés, mais cela ne peut venir que par la parole, c'est vrai. Dieu seul peut pardonner les péchés, pas vrai? N'est-ce pas qu'on dit les pharisiens, qu'est-ce qui ne tournerait pas rond, qui n'allait pas chez cette bande d'hypocrites aveugles? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas vu que c'était la parole qui était là avec eux. Il est la parole. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait pardonner les péchés. Il était Dieu. Il était la parole manifestée. Maintenant, l'Église catholique dit que Jésus leur a donné le pouvoir, effectivement. Il a donné le pouvoir à l'Église, c'est vrai, nous croyons ça. Toutes ses filles sont des prostituées. Toutes ses filles dénominationnelles sont des prostituées. Frère Branham, c'est fort comme parole. Ce n'est pas ma parole, à moi, c'est sa parole, c'est exact. Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne, très bien. En quoi, vous dites, en quoi le sont-elles? Comment sont-elles devenues des prostituées? Voyons, ce sont de brèves gens, telles et telles. Je n'ai pas un mot à dire là-dessus. Je ne parle pas de ce qu'ils sont. Je ne dis pas que les catholiques, ce ne sont pas de braves gens. Ils sont aussi bons que n'importe qui. Ce sont des êtres humains comme nous. Mais pour ce qui est de cette vieille église-là, elle est dans l'erreur. Les protestants, ils sont tout aussi bons. Les méthodistes sont tout aussi bons que les baptistes ou que les pentecôtistes ou de n'importe qui d'autre. Ils sont tous pareils. Mais alors, dans ce cas, en quoi donc est-elle une prostituée? Pourquoi? Passez-la au test de la parole, c'est comme ça que vous saurez. Oui, éprouvez-la par la parole, une bonne foi, et voyez ce qu'elle dira. Oh, évidemment, au séminaire, on nous enseigne que le jour-là, c'est comme ça avant. Mais c'était il y a très longtemps, du temps des apôtres, c'était seulement pour les apôtres, pas pour eux seuls. Vous, les prétendues églises de Christ, on parle quand la Bible parle et on se tait. Eh bien, j'aimerais vous entendre dire quelques mots maintenant. Ah, non, vous taisez. La parole de Dieu vous fait taire chacun. Frère, aucun homme n'a de quoi se vanter, c'est vrai. Toutes ces filles sont des impudiques. En quoi? Même chose que leur maman. Elles commettent des fornications spirituelles à l'égard de la parole. C'est comme ça que l'Église catholique est devenue une prostituée. C'est comme ça que ces filles sont devenues des impudiques. Même chose, la fornication spirituelle à l'égard de la parole. Elle et ses filles ont un sein qui se prostitue. Il n'y a que la mort qui puisse sortir d'elle. Dieu ne peut pas produire la vie à travers la mort. Et tout ce qui est mort-né n'est pas vivant. Est-ce que, comme Job le disait, d'un être souillé peut-il sortir un homme pur? Non, pas un seul. C'est vrai. Comment peut-elle produire elle-même une naissance alors qu'elle-même est morte? Comment peut-elle être vierge alors qu'elle est toute une prostituée? Voyez, voilà, tout est là. Oh là là. Maintenant, nous allons aborder quelque chose de très riche, rempli de vitamines, de la Genèse à l'Apocalypse. Remarquez. Elle et ses filles ont un sein de prostituée. Il n'y a que la mort qui puisse sortir d'elle. Si vous voulez adhérer à l'organisation que vous pensez que vous n'avez rien à craindre, vous voyez dans quoi vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez au beau milieu de la mort. Exactement. Si vous ne pouvez pas voir ça maintenant, vous êtes aveugle spirituellement. Voyez. Bon, maintenant, faisons un retour en arrière. Reprenons ce que nous avons dit pour en venir à quelque chose. Vous vous souvenez de quoi il avait été question à la réunion de dimanche passé? La porte de l'âme. Vous vous en souvenez? Bon. Il y a un saint physique, il y a un saint de l'esprit, vous avez cru ça? Il y a un saint spirituel et un saint physique, et la pensée et le saint et l'esprit. Pourquoi? Maintenant, souvenez-vous, je vous ai parlé dimanche passé que je vous ai brossé le tableau. Ici, il y a cinq sens qui pénètrent cette semence de l'extérieur, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Il y a cinq à l'extérieur, la conscience et ainsi de suite. Les cinq sont à l'intérieur. Maintenant, pour ce qui est de la vie, il n'y en a qu'un. Et ce qu'il vous a donné le libre arbitre, vous pouvez accepter, recevoir ou bien refuser. Voyez? C'est comme ça que l'adultère. Un instant. C'est comme ça que l'adultère se commet spirituellement. C'est quand vous, alors que vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu, vous avez des rapports dans votre pensée et que vous recevez un mensonge du diable au contraire à la parole de Dieu. C'est exactement ce qu'Ève a fait. Elle a eu un rapport spirituel d'abord en croyant le mensonge de Satan, en le recevant dans le sein de sa pensée. Cela a corrompu son âme, cela a installé la mort dans son âme, après quoi l'acte naturel s'est produit. Et c'est la seule façon pour une femme de commettre un adultère à l'égard de son mari. Il faut qu'elle laisse un homme la persuader et ensuite qu'elle reçoive un homme autre que son mari. Elle aura commis un adultère. De même, quand l'épouse de Jésus-Christ laisse des credos et des dogmes faits de main d'œuvre, d'hommes prendre la place de la parole de Dieu, elle commet un adultère. Jésus n'a-t-il pas dit, quiconque regarde une femme a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle? Pourquoi? Elle a fait entrer ça dans la pensée de cet homme. C'est le saint. C'est ce qui met les choses en mouvement. Satan est entré. Nous avons été ensemencés de la parole. Un jour, je ferai venir la vie sur la terre et je remplirai la terre. Ça, ce qu'Ève n'a pas su faire, Marie, elle l'a fait. Elle a accepté la parole. Ève a accepté le mensonge de Satan. Marie a accepté la parole de Dieu. Et c'est par la semence de Marie que la terre se remplit de nouveau, par son épouse, par la parole. C'est ce qui amènera le millénium. C'est ainsi que la parole est proclamée, que la parole est plantée dans chaque cœur prédestiné. L'esprit descend, l'arrosé. Ils ne peuvent pas mourir. Je les ressusciterai au dernier jour, ô frères, sœurs. C'est réel. Qu'en est-il? La pensée est le sein de l'esprit. Pourquoi? Recevoir ou bien refuser. C'est comme ça qu'ils commettent adultère. C'est en recevant, en laissant un esprit démoniaque de Satan introduire en eux quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Alors, elle aura commis un adultère. Ève a reçu, écoutez ceci, une parole qui était une mauvaise semence, le mensonge de Satan, contraire à la parole de Jéhovah, le résultat était la mort. Bon, nous allons quitter ce sujet-là dans quelques minutes, mais je veux mettre toute mon énergie à faire pénétrer ça avant que ce soit le moment de m'arrêter. Il y a une page ici que je vais sauter tout de suite ou dans une autre minute. Maintenant, regardez. Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reçu la mauvaise semence. Comment l'a-t-elle fait? En croyant le mensonge de Satan. Combien disent, sont d'accord là-dessus? Bien sûr que c'est ça. Bien sûr, elle a reçu le mensonge de sang. Qu'est-ce qu'elle a produit en faisant ça? Satan a dit, tu sais, c'est glorieux, c'est quelque chose de merveilleux. Sais-tu que tu as été fait pour ça? Non, tu as été fait précisément dans ce but-là. Oh, vraiment? Oh, c'est agréable de voir. C'est bon, tu devrais essayer. Mais l'Éternel Dieu a dit, pas ça, pas encore. Attends, attends un instant. Non, 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 non. Mais tu sais, oh, si nous faisons ça, nous... Oh, vous ne mourrez point certainement. C'est ce fin causeur de le diable. Il n'a pas de sabot ni de queue fourchue, non. Comme il voudrait vous le faire croire, comme c'est un fin renard derrière la chair. C'est vrai, oui. Ou un petit Ricky qui a l'air d'un canard, les cheveux tous lissés, et qui est assis là, nonchalamment, cherchant à faire le mal à la fille de maman. C'est ce gars-là. Il se présente avec quelque chose qui a l'air bien mignon. Oh, je n'en dis pas plus. Donc, le saint Ève a reçu une parole qui était la mauvaise semence. Maintenant, écoutez très attentivement, là. Nous allons faire pénétrer ça à fond si le Seigneur le veut. Elle a reçu la mauvaise parole. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? C'était le mensonge de Satan. Il disait qu'elle serait sage. Eh bien, elle pourrait faire partie de la grande église. Elle serait bien considérée dans la ville. Alors, elle serait comme les autres. Bien sûr, c'est exactement ce que l'épouse de Jéhovah a cru. C'est exactement ça. C'est exactement ce que Satan aurait essayé de dire quand la parole est venue à Marie. Mais elle s'est vite débarrassée de lui. Elle disait, comment est-ce possible? Il a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est la parole de Dieu. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est ce qu'il a produit la vie. Voilà. Eh bien, sais-tu, Satan a dit, tout le monde va rire de toi. Cette jeune fille aux joues roses n'a pas du tout prêté attention à ça. Tout de suite, elle s'en est allée. En Judée, tu sais, je vais avoir un bébé avant qu'elle ait senti quoi que ce soit parce que la parole était déjà implantée là. Un point, c'est tout. Elle n'a pas eu besoin de passer dans la ligne de prière une deuxième fois. Vous savez, non, non, non. Non, monsieur, non, monsieur. Elle y a cru. Elle n'a pas eu aucun signe de vie en elle. Elle n'a absolument rien eu comme signe de grossesse. Elle n'a absolument rien senti comme tout était exactement comme auparavant. Elle ne s'en est allée. Elle disait à tout le monde, je vais avoir mon bébé. Pourquoi? Dieu l'a dit. Qu'est-ce que c'est? La semence royale d'Abraham. Et tu vas avoir un bébé, Abraham. Et cette femme-là, Dieu l'a dit. Eh bien, tu m'as dit que ça il y a 25 ans. Je sais, mais Dieu l'a dit. C'est ça. Voilà. C'est la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, tu sais, la dénomination va te mettre à la porte. Mais Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Eh bien, tu sais, si tu fais baptiser comme ça, et Dieu l'a dit. C'est ça. C'est ça. Le voilà, votre vierge. La voilà. Pas seulement à l'égard du baptême, mais de n'importe quoi d'autre, le reste de la parole. Voyez? Alors, qu'en est-il? Ça a été les deux physiques et spirituels dans le cas d'Ève. D'abord, à chaque fois, et je vous l'ai dit ce matin, je vous ai demandé, les sœurs, de me pardonner alors que je veux mentionner ces choses. Chaque fois qu'une femme fait un faux pas, je parle de Christ et de l'épouse maintenant, mais chaque fois qu'une femme fait un faux pas, il faut d'abord qu'elle ait reçu dans sa pensée. C'est vrai. Un fin renard doit l'en persuader. Elle écoute ce qu'il dit. Bien sûr que le gros bon sens lui dise le contraire, après quoi l'acte est commis. Donc d'abord, Satan est venu dans la pensée de Ève. Et dans le sein de sa pensée, elle a douté de la parole de Dieu, après quoi l'acte concret s'est produit. Et le seul moyen pour nous de naître de nouveau, c'est d'abord, dans le sein de la pensée, de recevoir la parole, après quoi l'Esprit vient sur elle. Et il la fait vivre. Voilà! C'est ça qui produit le résultat. C'est ça le vrai enseignement de l'Évangile, frère. Je crois que si Saint Paul était là aujourd'hui, il enseignerait la même chose que moi en cette heure. Très bien. Quel a été le résultat pour elle? La mort physique et spirituelle. Quel est le résultat pour ceux qui acceptent de prendre l'autre chemin, celui qui mène à la rigolade et qu'il y a aujourd'hui la mort physique et spirituelle? Les deux, le corps et l'esprit, seront anéantis, ne seront plus. C'est tout à fait vrai. Remarquez, le sein de Marie, la pensée physique, voyez-vous, était un saint vierge. Pourquoi? Elle croyait à la parole de Dieu. Peu importe combien on pouvait critiquer toutes les choses que quelqu'un d'autre pouvait dire, ça n'y change absolument rien. Elle croyait à la parole de Dieu quand même. Oh, je voudrais tant vous faire saisir ça. Vous saisissez? Voyez? Voyez? D'abord, il y a eu sa pensée. Avant même que l'acte se produise dans son sein physique, il a fallu que l'acte se produise d'abord ici, qu'elle laisse l'esprit entrer pour qu'il fasse le reste du travail. Oh là là. Gloire. Avant que la véritable naissance spirituelle puisse se produire, il faut que la parole fasse son chemin dans votre pensée. Il faut la croire. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en moi, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne passera jamais en jugement, mais il est ou ne passera pas par la période de la tribulation, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça, oh là là. Maintenant, remarquez, un saint vierge, sa pensée, une pensée vierge pour croire la parole de Dieu, vous dites, mais écoutez, oh, dites donc, frère Branham, ça ne peut pas être comme ça, c'est impossible, John Wesley l'aurait vu, un tel l'aurait vu. C'est sûr, le diable aurait pu dire la même chose à Marie. Qui es-tu? Toi, mais tu es la plus pauvre en ville. Tu n'es qu'une jeune de 16 ans, 18 ans, qui est ici à transporter de l'eau de cette pompe. Ton père est mort, ta mère est une vieille aveugle là-bas. Voyons, comment donc est-ce que tu... Comment Anne était sa mère, d'après ce qu'on nous dit. Voyons, comment donc est-ce que tu pourrais faire ça? Écoutez, ma vieille mère est une aveugle, mais c'est une sainte femme. De ses lèvres, elle a planté une semence dans mon cœur. Je l'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu a dit dans Ésaïe 9, 6. Une vierge concevra. Alléluia. Vous voyez, la parole se fait chair. Voilà, Dieu aura son église. Elle sera née de la parole de Dieu parce qu'elle est la parole vivante de Dieu. Vous le voyez? Comment le sais-tu? Mais ça va, sais-tu de quoi on va te traiter à partir de maintenant? On va te traiter de quoi on va te traiter? Ça m'est égal, ça ne change rien. Qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Oh, est-ce que tout le monde pourrait dire ça aujourd'hui? Oh, si les gens pouvaient vraiment que ça vienne du cœur, que nous puissions tous dire ça, vous voyez? Qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Oh, en étant vraiment sérieux à ce sujet, il y en aurait un ou deux quelque part là, ça va se saisir. Ça va se saisir de quelques prédestinés qui vont vraiment sérieux à ce sujet. Et aussitôt, frère, vous allez voir voler les étincelles. C'est vrai. Quand vous avez vraiment là ce qu'il faut pour recevoir ce qui vient, que cette irrigation se met à descendre sur cette parole, oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que c'était? Une pensée vierge, un saint vierge pour le bébé. Le résultat, la vie éternelle. Ève, une brave femme, oui, elle était vierge, elle l'était, mais elle a d'abord laissé entrer le doute par la parole, un mensonge du diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené à entrer en contact de la mauvaise manière. Son enfant, qu'est-ce qu'il a fait? La mort. Marie, une pensée vierge, un saint vierge. Quand le diable a essayé de la tenter, qu'il est venu, l'ange était venu à elle. Il avait dit, tu vas avoir un bébé. Satan a dit, allons, tu fais mieux de te renseigner là-dessus. L'ange a dit, c'est un acte de Dieu. Et sans doute qu'elle a pensé à Ésaïe 9, 6. Elle a dit, voici la servante du Seigneur. Quel est le résultat? Une naissance vierge, la parole éternelle en elle. Elle a produit la vie éternelle. Très bien. L'épouse de Jéhovah a croisé, la semence. Qu'est-ce que vous disiez là, frère Branham? Ce matin, vous disiez que l'épouse de Jéhovah avait commis l'adultère. Je ne laisserai pas ça de côté. Maintenant, soyons très attentifs là. Maintenant, nous en avons encore pour environ une heure, je pense. J'en ai une partie ici. Je vais vraiment être obligé d'en sauter pour commencer à lire dans quelques instants, voyez-vous. Et simplement lire aussi vite que je pourrais pour que ce soit donné. Maintenant, encore une heure, je crois, et nous sortirons. Et si vous voulez bien être patient avec moi et prier avec moi. Maintenant, en quoi est-ce donc que l'épouse de Jéhovah a fait ce qui est mal? Très bien, Jéhovah avait envoyé quoi à son épouse en Égypte? Il avait promis à Abraham que son épouse, la semence, séjournerait en Égypte pendant 400 ans. Pas vrai? L'heure était venue où la parole devait s'accomplir. Sommes-nous à l'heure où la parole doit s'accomplir? Bien sûr, l'heure de la délivrance, de partir d'ici. Très bien. Par quels moyens ont-ils reçu la parole? Ont-ils formé une organisation, un groupe d'hommes qui se seraient réunis et des sacrificateurs qui auraient dit, « Maintenant, frère, on va procéder à un vote et il a été décidé de l'humanité qu'on va fonder une organisation appelée les pharisiens. » Et c'est par ce moyen-là que Dieu va agir. Dieu n'a jamais fait une chose pareille, jamais. Qu'est-ce qu'il leur a envoyé? Un prophète. Et la parole du Seigneur est venue au prophète. Il l'a suscité au milieu d'eux. Un prophète. Il l'a oint. Il l'a confirmé. Au beau milieu de tous ces autres démons qui étaient à l'œuvre, par des miracles et tout, parce que Moïse s'en tenait à la parole. Il est allé chercher ce groupe de gens. Un mélange de gens de toute espèce ont pris le départ avec lui. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, tout près du pays promis, avant qu'ils y arrivent, sa précieuse épouse a commis adultère avec Moab. Maintenant, venez me dire qu'elle ne l'a pas fait. Comment l'a-t-il fait? Un prophète qui mentait, qui s'opposait à la parole de Dieu. Pourtant, il avait tous les signes et tout le rituel. Il était tout aussi spirituel que Moïse. Il faisait aussi bonne figure. Regardez, écoutez bien maintenant. Il y avait Israël qui formaient un camp, ils étaient interdominationnels. C'est vrai, qu'en est-il? Ils avaient avec eux un prophète, oint. Ils avaient une colonne de feu, un rocher d'où sortait de l'eau pour les désaltérer. Tout allait bien pour eux. Quoi encore? Ils avaient sept autels, ce qui est parfait. Sur ces sept autels, on mettait les sept animaux purs, des béliers, un bélier. Ça représente la venue de Christ. Moab, qu'est-il arrivé? Quand Balaam est allé là-bas, il a bâti sept autels identiques aux leurs. Sur le plan fondamental, ne parlez pas d'eux, parce que vous aurez davantage à savoir de quoi vous parlez. Jésus a dit que ça irait presque jusqu'à séduire même les élus. C'est révélé spirituellement. Vous saisissez ce qu'il en est. Donc, c'est la parole. Vous voyez la parole manifestée. Regardez, voici, ils étaient là-haut. Ici, il y avait Moab, où ils étaient, sans doute qu'ils étaient un évêque, c'est sûr, un type épatant. Il a bâti sept autels. Il y a mis sept béliers pour exprimer qu'il croyait qu'un Messie allait venir. Frère, si c'était une question de fondamentalisme, Dieu aurait dû les accepter tous les deux. Quand Caïn a bâti un autel à l'Éternel, que le fils de Satan a bâti un autel à l'Éternel, il a bâti le même genre d'autel qu'Abel a bâti. Ils ont tous les deux adoré, ils ont tous les deux sont allés à l'église, ils ont tous les deux payé ce qu'ils devaient, ils se sont tous les deux acquittés de leurs obligations, ils se sont prosternés et ont adoré le même Dieu. L'un a été accepté et l'autre perdu. Comment est-ce arrivé? Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église catholique dit, il y aura là une pierre, l'église est bâtie sur elle, et où c'est Pierre qui a été cette pierre. Et l'église catholique dit que Pierre a été enterré chez eux. C'est un mensonge. Mais d'après ce que moi je vois, le moment où ils ont dit que Pierre avait été enterré là-bas, la Bible a dit qu'il était ici, à Jérusalem. Vous voyez, il n'a jamais été là-bas, mais ils disent qu'en même, qu'il y a été, en fait, nulle part. Il est même mentionné que Paul a été là-bas dans l'histoire. Mais ils disent que Pierre il aurait été enterré là-bas, il y avait été. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Ce n'est pas ce que Jésus parlait. Vous voyez comment il a confondu les points matériels? Eh bien, les protestants, eux, disent, non, Jésus a dit qu'il était sept pierres. Oh! Il n'a jamais dit ça. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. La chair et le sang, tu n'as pas du tout appris cela dans un séminaire. Ce n'est pas une dénomination quelconque qui te laisse enseigner. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, la vérité de la parole de Dieu révélée spirituellement, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Ne pourront pas prévaloir contre elle. Moab a fait la même chose. Il s'est présenté là, il a enseigné aux enfants d'Israël. Il a dit, « Mais voyons, mon ami, oh, il a fait la même chose à ceux de la Pentecôte. Mais regardez, mais voyons, sommes-nous pas tous pareils? Ne croyons-nous pas au même Dieu? Ne sommes-nous pas tous pareils? » Les enfants de Moab, c'était ceux de la fille de Lot. Vous voyez cette vieille bande qui s'était échappée là-bas? Ils étaient encore comme un cheveu dans le pain. Voyez, voilà, ils sont dégoûtants, voyez. Ils étaient là-bas et alors... Allons, elle disait, mais voyons, tu sais que on est tous pareils, combien savent que c'était là les enfants de Lot? Bien sûr, de leur propre papa, par adultère, ils ont dit, voyons, nous sommes tous pareils. Vous savez, vous les méthodistes, vous les baptistes, et nous les presbytériens tous, mais bien sûr, nous voulons de votre huile, nous sommes tous pareils. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mariés avec elle. Et c'est ce que la Pentecôte a fait avec les protestants. Elle est entrée par le mariage dans une fédération d'église, elle a fondé une dénomination. Et où en est-elle? Tout comme Israël, elle a été répudiée pour une cause de fornication spirituelle et de fornication physique. Dieu l'a refusée à partir de ce moment-là. Même ces enfants-là, qui sont devenus les Samaritains, ont été maudits, pas vrai? Bien sûr qu'elle l'a été. Jéhovah l'a répudiée. L'épouse de Christ a fait la même chose. Elle a croisé sa semence dénominationnelle et elle a répudié Christ, son fiancé. Vous, les pentecôtistes, bande de lavés à sec, qu'est-ce qui vous arrive? Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20, nous voyons que, par prophétie, Jésus-Christ, à l'extérieur de sa propre Église, en cet âge de Laodicée, frappant à la porte, cherchant à y revenir, l'image la plus navrante que nous présente la Bible, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est livrée à la prostitution. Quand Jésus vient, pourquoi frappe-t-il? Jésus est revenu pour prendre son épouse avec lui. Quand il est venu frapper à la porte, l'accès lui a été fermé. Voyons, tu ne peux pas entrer ici. Tu ne peux pas faire de réunion de réveil. Va, montre-toi, montre-moi tes papiers d'ordination. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu, les vraies, les véritables paroles de Dieu, la parole de Dieu manifestée dans son ministère. On ne peut pas dire un seul mot contre lui, rien d'immoral, ni quoi que ce soit qui peut l'accuser de ces choses. Il va vers une dénomination, mais il n'est pas unitaire, il n'est pas assemblé, il est trinitaire, il n'est pas trinitaire, il est désassemblé, pauvre bande d'illégitimes. Honte à vous! Dieu à l'extérieur! Mais ce que Jean a dit, ce dernier messager là-bas, avant sa venue, de ces pierres, il peut susciter des enfants à Abraham. Ne venez pas dire, nous faisons partie de ceci, nous faisons partie de cela. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Très bien. Maintenant, continuons à avancer. Oh, j'aime vraiment ça. L'épouse de Christ, tout comme l'épouse d'Adam et tous les autres, elle a croisé la semence et la mise. Christ à la porte pour sa dénomination. Bien sûr qu'elle l'a fait, certainement qu'elle l'a fait. Elle a refusé Dieu, son futur mari, comme elle l'avait fait. Elle a accepté les mauvaises herbes du mensonge mortel de Satan. Le résultat, une église mortelle, formaliste, est née d'elle. Bon, vous mentez, direz-vous, c'est un mensonge. Où sont vos pentecôtistes? Ils sont plus fondamentalistes que les baptistes. Bien sûr, savez-vous quoi? Le tableau est plus sombre en ce moment, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Joël a dit dans Joël 2, 28? « Mais je restaurerai, dit l'Éternel. » De même qu'Adam a trouvé sa femme fécondée par la semence de la mort, le mensonge de Satan qu'elle avait accepté, José a trouvé sa femme fécondée par la semence de Dieu, c'est-à-dire la parole qu'elle avait acceptée. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que j'essaie de dire? Maintenant, vous qui êtes à l'écoute par les ondes, vous qui êtes dans votre voiture, vous qui êtes dans le tabernacle, vous voyez pourquoi je m'en suis tenu à ceci, que j'ai cherché à m'y tenir aussi strictement, que j'ai donné ces choses, ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre vous les hommes, contre ces femmes, je n'ai absolument rien contre eux, mais je ne peux tout simplement pas aller sur ce terrain-là. Je ne peux tout simplement pas parce que c'est celui de la fausseté. Il y a un passage de l'Écriture que j'aimerais vraiment prendre. C'est celui qui traite de Jésus, de son attention quand il essayait de le prendre au piège. Il a dit, « Je te donnerai tous les royaumes de ce monde. Ils m'appartiennent. » Voyez, c'est ça qui s'était présenté à Ève comme même chose. Voyez, d'abord, il a été question de changer de pain, de manger et tout. Et voyez, je ferai tout ça. Et si tu m'adores, tu n'a qu'à venir adhérer à un autre groupe. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce? Maintenant, certains d'entre vous, les prédicateurs, vous avez trop peur pour prendre position. Vous craignez qu'on ne vous laisse même plus entrer dans l'organisation. Alors, vous feriez quoi après? On vous mettrait à la porte. Vous me faites pitié, premièrement, à cause de votre faiblesse, c'est vrai. Où est votre foi en Dieu? Ils m'ont dit la même chose à moi, bien sûr. J'ai travaillé pendant 17 ans jusqu'à ce que Dieu m'en sorte, qu'il m'ait fait progresser jusqu'à ce que... Et alors, j'ai pensé, maintenant, Satan vient donc maintenant voir de quoi il s'agit. Quand vous vous rendez vraiment compte que c'est Dieu qui vous a révélé la vérité de la chose, alors rien au monde ne peut vous vaincre. Un point, c'est tout. Vous êtes absolument invincible. Pas vous, mais Dieu qui est en vous, pas Christ, mais... Pas le corps, mais ceci, la parole qui était en lui, pas Marie, mais la parole qui était née en elle. Bon, donc l'homme vivra de quoi? Pas de son gagne-pain, mais de la parole de Dieu. Pas de votre organisation qui vous fournit un poste. Eh bien, je vais présenter vos références. Est-ce que vous avez la cote? Il faut vérifier. Eh bien, oui, vous êtes très bien coté, à peu près 100%. Eh bien, nous pourrons vous accueillir quelques jours pour des réunions de réveil, vous mettre à l'essai pour voir ce que vous pouvez faire. Oh là là, comme est-ce que Dieu pourrait jamais agir dans une bande pareille? Deux fois mort, déraciné, pourri, et tout le reste. Oh là là, en voilà une autre. Oh les amis, que Dieu vous ministre. Écoutez-moi! Je ne peux rien croire d'autre que la parole de Dieu. Je veux qu'elle soit ma vie. Tout ce que je suis, je veux que vous fassiez pareil, que vos démarches, vos propos, vos actions, tout ce que vous faites, que ce soit selon la parole de Dieu, laissez entrer la pensée de Christ en vous. Et avec elle, vous serez fécondés par la parole. Sinon, si vous laissez entrer la pensée de la dénomination, vous serez fécondés par la dénomination. Si vous laissez entrer la pensée de Christ en vous, il ne peut pas nier sa propre parole. Parce qu'il est Dieu, vous serez fécondés par la parole et vous le croirez. Il aura beau vous expulser, vous mettre à la porte, vous chasser, que toutes les portes se ferment, peu importe. Vous irez de l'avant quand même. Amen. Phew, il faut que je me dépêche maintenant. Ah. Christ est maintenant en train de se choisir une épouse qui doit être fécondée par sa semence parole, à lui, dans son sein spirituel, dans sa pensée. Et elle n'y mélangera aucune saleté dénominationnelle. Elle est une vierge qui lui appartient à lui. Oh, je me rappelle assis là dans la pièce, je suis resté 3 jours à prier, à m'attendre au Seigneur et à jeûner. Et quand j'ai été saisi par ça, j'ai pensé, « Oh Dieu, qu'en est-il? Me voici dans cette situation, me voici ici. Je présente tout ça à l'Église. Où en serais-je? Je l'aurais mis sur la corde raide. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai bien vu que ce qu'il en est de l'Église et tous les types et tous les ombres et tout le reste, elle démontre... Qu'elle est finie, qu'est-ce que tu vas faire? Alors j'ai pensé à cette parole, je restituerai, dit l'Éternel, je restituerai. Rappelez-vous le vieux pain quand le feu s'abat sur cet arbre et le réduit en cendres. Mais il réussit à laisser tomber une semence. C'est une semence en produit une nouvelle. C'est vrai. Les vieux arbres ont été brûlés par l'organisation et tout le reste. Mais il y a une semence de la parole qui est toujours là, la parole de Dieu. Elle reviendra, elle se reproduira aussi sûr que 2 et 2 font 4. Oui, donc, elle ne manquera pas le but. Remarquez, mais Christ, nous croyons que nous sommes au temps de la fin, n'est-ce pas? Croyez-vous qu'avant d'avoir une récolte là-bas, il faut planter une semence? Vous voyez pourquoi je l'ai laissé les églises me mettre à la porte, me dire n'importe quoi, me traiter de tous les noms et tout le reste, est-ce que je m'en suis tenu strictement à cette parole? Voyez, il y a une plante, une semence qui a été plantée. Elle a été plantée déjà, mon ami. C'est déjà fait. Maintenant, je peux le dire. C'est terminé, c'est vrai. Elle a été plantée déjà. Oh oui, la semence dénominationnelle. Aussi, toutes les autres, comme notre très précieux frère Billy Graham la disait ici à Louisville. Il disait, Paul pouvait prendre une Bible. Il a pris la Bible, il a dit, bon, Paul, vous pouvez aller dans une ville faire une série de réunions de réveil. Il avait un seul converti. Il retournait l'année d'après. Il en trouvait 60 qui s'étaient convertis par l'entremise de celui-là. Il disait, moi, je peux aller faire une série de réunions et un réveil de 6 semaines et avoir 20 000 convertis. J'y retourne 6 mois plus tard et j'en trouve pas 20. Qu'en est-il? Ce ne sont pas des convertis, ce sont des convertis au système dénominationnel. C'est tout, certainement. Il faut planter, voyez-vous, vous plantez des semences dénominationnelles. Voilà ce que vous récoltez. Maintenant, venez, frère, adhérez à l'Église. Mettez votre nom sur le registre et tout ce qu'ils connaissent, c'est vrai. La Pentecôte a fait la même chose, parler en langue et ainsi de suite. Et c'est tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Et ça y est, venez donc adhérer à l'Église. Très bien, recevez votre faux baptême et ainsi de suite. Et continuez votre chemin. C'est tout ce que vous avez à faire, voyez. Mais quand Christ viendra, il viendra chercher une vierge, une église qui n'aura pas même une seule tache, ni une seule ride, d'une dénomination, ni de quoi que ce soit d'autre, aucun croisement avec ces dames. Ce sera la parole, rien d'autre. Maintenant, oh mes amis, nous y voilà, le Seigneur soit béni. Maintenant, nous en venons au corps qui doit être l'épouse de Christ, qui doit maintenant être sa chair de sa chair et os de son os. Bon, maintenant, on va se dépêcher. Chair de sa chair et os de son os. Pourquoi est-ce que je veux poser une question? Pourquoi est-ce que toutes vos pluies dans le passé n'ont pas amené l'épouse vers Christ? Je voudrais que vous me donniez la réponse à cela. Si sa venue aurait dû avoir lieu il y a longtemps, nous croyons ça, c'est comme du temps de Noé, il était parti, il prépare son épouse. Pourquoi est-ce que c'est pluie? Ou est-ce que vous, les pentecôtistes, qu'il y a quelques années là-bas, quand vous avez commencé, il y a 45 ans, pourquoi n'avez-vous pas amené Christ, l'époux et l'épouse, à l'épouse? Je vais laisser pénétrer ça un instant. Pourquoi? Parce que vous l'avez fécondé vous-même par votre dénomination. C'est exactement ça que vous avez fait. Et il n'épousera pas une prostituée. Il épousera une vierge. C'est direct, ça. Mais c'est la vérité. Vous savez ce qu'il en est. C'est dit sans détour. Vous n'avez pas à vous demander. Je ne patauge pas là-dedans. Je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que ces choses ne l'ont pas amené? Pourquoi est-ce que ces choses n'ont pas amené Christ, vers elle? Parce qu'elle n'est pas en condition. Il l'a trouvée dans l'adultère. C'est exactement pour ça. Quand les enfants naissent, ils ne vivent pas éternellement. Adam a trouvé sa femme fécondée. C'est pour ça que Jéhovah a été obligé de prendre une épouse parmi les nations. Il l'avait trouvée fécondée. C'est exactement comme ça. Maintenant, Christ est obligé de se choisir une épouse. Le groupe qui se donnait ce nom-là, il l'a trouvé déjà fécondée. Il va semer sa semence. Quelqu'un va la recevoir. En effet, ce sont ceux-là. Ils ont été prédestinés à être une église au bout du chemin, comme celle d'Adam et celle de Jéhovah. Il les a trouvés fécondés par des doctrines dénominationnelles faites de main d'homme, conformément à la vérité de Dieu de Genèse 1. Chaque semence produit selon son espèce. Alors, quand l'Esprit est descendu sur elle, l'homme s'était déjà introduit dans son sein et il avait rempli des semences dénominationnelles et sa propre pensée. Alors, voilà pourquoi elle se retrouve dans l'état où elle est et Christ n'a pas pu venir vers elle. C'est dur à entendre, n'est-ce pas? Un jour, j'étais à Green Mill. J'étais en prière depuis quelques jours. Il y a bien des années de cela, j'étais allé ici à Mishawaka et je n'ai encore jamais dit ceci sur bande. J'étais allé à Mishawaka. Vous vous souvenez du jeune homme de couleur? Je venais de découvrir les pentecôtistes. Je ne savais même pas qu'ils existaient. J'étais là-bas et c'est là que les ai découverts. J'ai pensé que j'avais trouvé une bande d'anges. Je les voyais parler en langue et tout. Et je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant, mais ils étaient là. Ils couraient d'un bout à l'autre de la salle en parlant en langue. Et je me suis dit, oh, c'est merveilleux ça. C'était l'accent aigu PU d'autrefois et les APM et tout ça et qui ont fusionné. Ils avaient, à l'époque, ils avaient la ségrégation entre les blancs et les gens de couleur. Ils avaient été obligés de les faire la convention dans le nord. C'était à Mishawaka, dans l'Indiana. Oh, j'avais $1,75, juste assez d'argent pour rentrer chez moi. J'ai pris 5 cents pour acheter des vieux beignes ou des petits pains et qui avaient peut-être 2 ou 3 jours. Je suis allé remplir un pot d'eau et à la prise d'eau et je suis allé dans un champ de maïs et j'ai enlevé les sièges de ma vieille Ford, je les ai posés par terre et j'ai repassé mon pantalon en le plaçant là pour la nuit et le pantalon en seersuckers et que je portais une espèce de petit t-shirt. Le lendemain matin, je suis retourné là-bas et je ne voulais pas manger avec eux. J'étais le bienvenu, mais je ne voulais pas manger avec eux parce que je ne pouvais pas participer à l'offrande. Alors, j'y suis allé pour voir ce qui en était ce jour-là. Ils dansaient, ils étaient tous fringants, ils chantaient dans l'esprit. Je me suis dit, oh là là, ça sonne si bien. Un homme se levait, il parlait en langue et celui-là, il en donnait l'interprétation. Et frère, c'était exact. Il appelait les gens qui étaient dans l'auditoire. J'ai pensé, oh frère, c'est merveilleux ça. Dites à Madame Jones, à une telle de venir tout de suite, le Seigneur l'appelle et la voilà qui vient, c'est vrai. Ensuite, celui-ci parlait en langue, l'autre interprétait. J'ai pensé, oh là 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 là, le millénium est sur le point de commencer. Ça y est, alors je pouvais seulement serrer la main de ces hommes saints. J'ai pensé, je suis allé voir l'un d'eux et au moment où j'étais dehors en train de me promener, ils ne me connaissaient pas. Alors là-bas, j'étais un petit genou et donc je me promenais tout autour de l'église. Un peu plus tard, au moment de la pause, je l'ai rencontré un homme et j'ai un d'eux, je l'ai serré la main et j'ai dit bonjour, frère. Ah, vous le savez, Dieu m'a donné un petit don là qui me permet de découvrir des choses. Et quand il veut que je sache Voyez, je me suis dit, si je pouvais arriver à le faire parler, qu'il me dise quelque chose, je verrais si c'est réellement vrai ou pas. Alors, j'avais vu que c'était eux qui avaient l'air de mener le bal. Je lui ai serré la main. J'ai dit bonjour, frère. Il a dit bonjour. Je lui ai dit parlez un peu. Il était un vrai chrétien. Il l'était. J'ai pensé, oh Dieu, sois loué. Et un peu plus tard, en tournant le coin, j'ai rencontré l'autre homme. J'ai dit bonjour, frère. Et je me suis mis à lui parler. J'ai jamais parlé à un hypocrite. Celui-là en était un. C'était un homme aux cheveux noirs. Il avait bébé d'une femme blonde. Je n'ai vu cela sans vision, là devant moi. Je me suis dit, maintenant, je ne sais vraiment plus où j'en suis. Alors, comment est-ce que même cet esprit peut être sur un homme? Celui-là est un homme saint et sur l'autre est un démon, un hypocrite. Je me suis dit, oh Dieu, je ferais mieux de laisser tomber tout ça. Je ne sais pas, je ne savais environ que 19 ans ou 20 ans. Je me suis dit, je ferais vraiment mieux de laisser tomber la chose. Eh bien, je ne savais pas. Voyons, comment est-ce possible? Je ne peux rien dire là-dessus. Je ne peux rien dire contre ça. Mais je ne sais que cet homme est faux. Mais le même esprit que j'avais, on l'avait observé, il descendait là, produisait le même effet. Je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche quelque part, un point, c'est tout. J'ai dit à cet homme, il a dit, as-tu reçu le Saint-Esprit? J'ai dit, je ne crois pas que j'ai reçu, je ne crois pas que j'ai ce que vous autres vous avez. Il a dit, gloire à Dieu, as-tu déjà parlé en langue? J'ai dit, non, monsieur. Il a dit, tu ne l'as pas. J'ai dit, eh bien, probablement que je ne l'ai pas. Voyez, j'ai dit, c'est nouveau pour moi. Je n'avais jamais vu ça. Je n'en ai jamais entendu parler. J'ai dit, eh bien, il a dit, eh bien, entre là, va le chercher. Bien sûr, c'est pour toi. Il dit, merci, monsieur. J'ai pensé, frère, je ne peux pas que toi tu as. Et donc, j'ai regardé ça un peu et j'ai continué à me promener pendant un moment et je me promenais. Je suis allé dans les bois et ce soir-là, je me suis dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Je rentre, je suis rentré. Je ne pouvais pas me prononcer ni contre ni pour. Et à un moment donné, j'étais à Green Mill, à ma petite caverne et je vais toujours ce dont vous êtes au courant. J'étais là et pour quelque chose d'autre, il y avait 3 ou 4 jours, j'y étais à jeûner, à prier. Comme ça, sentait le moisi dans la caverne. Et un après-midi, je suis allé, c'était joli, le soleil brillait, il y avait des feuilles, un vieux tronc d'arbre était tombé comme ceci. Un peu plus bas, près du ruisseau, je me suis assis dessus et je me frottais les yeux. Ça faisait un bout de temps que j'étais dans cette caverne sombre. J'ai posé la Bible comme ça et je me suis dit, eh bien, je crois que je vais lire un peu dans la Bible. Je vais m'adosser à cette branche ici. Je vais juste me reposer, m'adosser comme ça. J'étais couvert de poussière. Je me suis mis à lire. Et quand j'ai pris ma Bible, elle était à Hébreux chapitre 6, voyez. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, voyez, s'ils tombaient, qu'ils puissent se renouveler et être ramenés à la repentance. Voyez, la pluie tombe souvent sur la terre pour la cultiver, la préparer pour ceux qui nous en retirons les épines et les chardons qui sont prêts d'être réprouvés. On y mettra le feu. J'ai pensé, eh bien, je me suis arrêté. J'ai pensé, qu'est-ce qu'il y avait là? Et j'ai dit, il y avait à voir quelque chose. C'est parti. J'étais là-bas. Prier pour quelque chose d'autre et j'ai posé ma Bible de nouveau. J'ai dit, eh bien, je pense que je vais prendre un passage, lire quelque chose, ça. Et un coup de vent l'a ramené. J'étais dans l'Ancien Testament. Il l'a ramené à Hébreux chapitre 6. De nouveau, j'ai baissé les yeux. C'était ça. J'ai regardé. Je l'ai pris. Je l'ai relu le passage. La même chose. Eh bien, je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu deviens superstitieux, Bill? Alors, je me suis dit, eh bien, je vais lire par ici. Et j'ai recommencé à lire. Je n'arrivais pas à m'intéresser à quoi que ce soit. Je me suis dit, eh bien, je crois que je vais juste lever les mains et louer le Seigneur. J'ai posé la Bible comme ça. J'ai levé les mains et j'ai loué le Seigneur. Quand j'ai levé les mains, le vent a fait, il a soufflé de nouveau. Et c'est à ce moment-là que j'ai baissé les yeux et Hébreux 6, je l'ai relis. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas, je ne pensais pas plus de tout à ce qu'il y avait procuré chez les pentecôtistes. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais assis là, je pensais, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose là, Seigneur. Je me suis dit, bon, je crois qu'à l'élection, oui, ceux-là ont été éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit. Vous voyez, ils ont goûté à la parole de Dieu. J'ai dit, ce sont les croyants frontaliers. Ils vont venir jusque-là, presque jusqu'à la réalité de la chose. Ils vont faire demi-tour, tout comme ceux du temps de Josué et Caleb, ils ont continué jusque-là, du côté. Mais ceux-là, ils sont restés à la frontière, voyez-vous, ils ont goûté, ils ont vu les bonnes œuvres de Dieu. Ensuite, ils ont refusé des gens qui sont là et assis à l'église tout le temps. Ils disent, je crois ça, frère Branham, mais ils ne font jamais le moindre effort pour le recevoir. Voyez-vous, il est impossible que ceux-là ne passent jamais de l'autre côté. Et donc, ils arrivent à ce point-là. On prêche aux femmes qui ont les cheveux courts. À l'année d'après, elles ont les cheveux courts. Et quand même, on prêche aux hommes ce qu'il faut faire, ils font toujours, toujours pareil, voyez-vous. Mais des croyants frontaliers qui disent, oh oui, je crois que c'est vrai. J'ai dit, évidemment, je crois, mais pour ce qui est de ce passage-ci, mais les chardons et les épines, peut-être d'être réprouvé, on finit par y mettre le feu. Je me suis dit, ça, c'est ce qu'il veut, ce que ça veut dire, je ne sais pas. Je suis resté assis et là, un bon moment, j'ai passé, oh Dieu, serait-ce quelque chose que tu veux me faire savoir? Je suis ici à attendre que tu me donnes une vision, Seigneur, pour savoir de quoi, ce que je dois faire au sujet du ministère là-bas. Je voudrais que tu me le dises, Père. J'ai regardé de l'autre côté du vallon et en direction, j'étais au-dessus de Charlestown, en direction de New Market, par là, et j'étais monté de l'autre côté de la colline. J'ai regardé, j'ai vu comme un arc-en-ciel au-dessus de la vallée. Et dans cet arc-en-ciel, j'ai vu quelque chose qui tournait. J'ai regardé, c'était le monde et un homme habillé en blanc est passé. Beaucoup d'entre vous est ici trop jeune pour avoir connu ça. Vous vous souvenez du temps où on semait la semence à la volée avec, on mettait un énorme sac à la côte, sur le côté avec les mains. On les lançait, Monsieur Wood. Vous vous souvenez de ça? On semait des semences à la volée. Comme ça, on les prenait dans nos mains et on les répandait comme ça. Le vent chargeait et les déposait dans la terre. Et j'ai vu un homme habillé en blanc qui passait comme ça et il semait des semences. Je l'ai observé jusqu'à ce qu'il ait disparu de l'horizon. J'ai pensé, qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Alors, j'ai regardé aussitôt qu'il allait de tourner, un individu à l'air rusé est venu, il regardait comme ça, il avait un sac rempli, et lui, il semait des mauvaises herbes, et derrière lui, il allait un peu partout sur la terre, il regardait toujours sournoisement. Vous savez, il lançait ses semences comme ça, et il a continué à dépasser un peu comme partout sur la terre. Ensuite, je l'ai vu lever le blé et lever les mauvaises herbes, les ronces, les épines, les charbons, et les chardons ont levé, et les deux poussaient ensemble, puis il y a une grande sécheresse, je l'ai vu blé avec sa petite tête penchée qui faisait « ah, 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 ah ». Il mourait vraiment de soif. Il avait jamais un petit graton, la tête penchée aussi. Ah, 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 il mourait vraiment de soif. Et tout le monde s'est mis à prier pour avoir de l'eau. Tout à coup, il y a eu de fortes averses en réponse à la prière. Et les averses ont arrosé toute la surface de la terre. Aussitôt que l'eau a touché la terre, ce petit blé s'est relevé d'un coup en disant « Gloire, 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 gloire ». Et d'un coup, le petit graton s'est relevé en criant de très fort « Gloire, 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 gloire ». Eh bien, je me suis dit « Maintenant, quand est-ce que ça ?» Et juste à ce moment-là, bon, le blé, il poussait des cris, et ça, je peux le comprendre, mais dans le cas du graton, qu'est-ce que ça voulait dire? Alors, il a dit, lis Hébreux 6, la pluie tombe sur les justes et les injustes. Voilà ce qu'il y a. Voilà ce que, pourquoi nous n'avons pas eu une épouse prête à recevoir Christ. Maintenant, nous sommes semés des semences dénominationnelles au lieu de semer la parole. Quel est le résultat? Encore d'autres enfants du national, c'est vrai, mais parmi ce qui est tombé là, il y avait une petite partie qui était du blé, c'est vrai. Mais regardez, c'est le même esprit qui fait le vrai, le véritable authentique croyant en langue, le vrai esprit qui fait de l'authentique croyant un chrétien, voyez-vous, parce qu'il a irrigué une parole, une semence, c'est le même esprit qui produit un substitut de cela, comme le produit. Du hybride d'Ève qui fait que le produit hybride est tout aussi heureux, qu'il pousse autant de cris, qu'il est tout aussi joyeux que les autres à ce sujet. Mais la vérité, c'est quoi? La semence est mauvaise au départ. Alors, toutes vos dénominations charnelles, ça ne vaut rien. Quand je parlerai dans la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Quand je pourrai transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Je parlerai des langues de la manière des hommes et des anges. C'est comme un airain qui résonne et des cymbales qui retentissent. Voyez, ce n'est rien. Écoutez, Église pacotiste, ce n'est rien. Maintenant, retournons dans l'Ancien Testament, voir quel type. Ensuite, j'aborderai quelque chose ici dans quelques minutes, après quoi je vous laisserai partir. Retournons dans l'Ancien Testament, voir quelques types pour prouver ces choses. Maintenant, j'ai mis plusieurs heures ici à présenter tout ça. Maintenant, nous allons changer de sujet, changer de programme. Bon, d'accord, j'ai quelque chose seulement pour quand j'en viendrai. Il me reste quelques pages ici. Ensuite, il va falloir que... Oh là là, pas possible. Pas tout ça. Il va vraiment falloir que je fasse très vite. Je vais les lire, voyez-vous, vraiment lire aussi vite que possible parce que je sais qu'il nous reste plus que très de temps maintenant. Voyez-vous, maintenant, êtes-vous fatigué? Oh, eh bien, alors c'est moi. Très bien. Allez, c'est bien. Donc, voilà pourquoi nous avons toutes ces choses que nous avons. Alors, toutes ces choses que j'ai dit, si elles ne cadrent pas avec la Bible ou ne concordent pas avec la parole de Dieu, elles sont fausses. Elles sont fausses. Tout le tableau, maintenant, je vais simplement présenter en vitesse quelques-uns des points que j'ai ici, sans l'expliquer, mais simplement les présenter en vitesse pour qu'on puisse les voir. Et je vous le promets, je ferai aussi vite que possible. Il y a un endroit ici où j'étais tellement dans l'esprit, j'en étais arrivé là, j'avais monté et prouvé que par la parole ici, qu'il en est de l'Église, exactement ce qui s'est passé tout au long. Et à ce moment-là, alors j'ai pensé, Seigneur, les gens sont là devant moi, maintenant ils seront là devant moi. Qu'est-ce que je peux leur dire? Je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne peux pas leur dire quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je les aurais mis sur le corps de raide. J'ai levé la main et j'ai dit, « Oh Dieu, il me semble que je fais ceci selon ta volonté. Je ne l'avais jamais fait, jamais auparavant, parce que la semence n'avait pas encore été semée. » J'ai dit, « Maintenant, je crois que l'heure est venue pour moi de dire, « Bon, maintenant, est-ce que je vais dire, et aussi clairement que vous entendez ma voix, quelque chose a dit, « Prends ta plume, je vais vous le lire dans une minute. » Et quand j'ai eu fini, voilà, c'était là, la réponse exacte. Je ne savais pas ce que j'écrivais. Je me suis mis à écrire, c'est tout. Et quand j'ai eu fini, j'ai posé ma plume, j'ai regardé, j'ai pensé, « Oh Dieu, aie pitié, c'était en plein ça, voilà, c'est ce que je cherche. » Il y a des choses que j'ai été obligé de laisser de côté. Vous y viendrez un peu plus tard, si le Seigneur le veut. L'Ancien Testament tout entier, c'était les types qui annonçaient Christ et son Église. Croyez-vous qu'Adam et Ève annonçaient Christ et son Église? Croyez-vous que Jéhovah et sa femme annonçaient Christ et son Église? Eh bien, si ça, ce sont des types. Et que ceci est l'antitype, il faut qu'il soit semblable à un type. En effet, le type atteint et l'antitype tient du type. Christ est le chef, la véritable pierre de Dieu. Croyez-vous ça? La véritable parole, l'épouse est le corps. Vous voulez des passages de l'Écriture là-dessus pour que vous puissiez vérifier. J'avais l'intention de lire dans les passages de l'Écriture, mais je ne le ferai pas. 1 Pierre 2, 1 à 6, Éphésiens 5, 22. Voyez, 1 Pierre 2, 1 à 6, Éphésiens 5, 23. Lisez le chapitre, lisez ces deux-là, voyez. L'Ancien Testament, Christ. Regardez bien, prenons donc ceci, par exemple. Peut-être, pourvu que ma femme n'ait pas pris mon dollar, là, voici, nous avons payé des sandwichs tout à l'heure, excusez-moi, mes amis, je n'aurais pas dû dire ça, mais j'ai une bonne épouse. Bon, au verso de ce dollar, sans elle, je ne l'aurais pas eu, ce dollar, je pense. C'est la miséricorde de Dieu qui nous l'a donné et elle m'aide. Donc, au verso de ceci, c'est notre monnaie. Et s'attendrait à ce que ce soit le sceau américain à gauche du dollar qui soit le sceau de ce pays, pas vrai? Mais comment se fait-il que c'est la pyramide qui est appelée le grand sceau? Mais votre monnaie doit rendre témoignage de cela. Oui, chaque fois que vous envoyez une carte postale ou du courrier, vous devez rendre témoignage. Et rendre témoignage, l'année de notre Seigneur, 1962, tout rend témoignage de Christ. Vous voyez? Avez-vous remarqué ça? Que le grand sceau, c'est une pyramide? Est-ce que quelqu'un ici savait que la pyramide, cette pierre de fête, n'y a jamais été posée? Combien savent ça? Bien sûr, j'y suis allé là-bas en Égypte, au Caire, oui. Il n'y a jamais eu de pierre de fête. Pourquoi? Celle-ci a été rejetée, la pierre angulaire. C'était la pierre angulaire qui soutenait cet édifice. C'était la clé de voûte. Combien savent que c'est une clé de voûte? Quand on construit la voûte, alors c'est la clé de voûte qui maintient tout ça ensemble. La pierre angulaire, c'est ce qui tient l'édifice, pas vrai? Et la pierre angulaire de la pyramide, c'était la pierre de fête. C'était une clé de voûte qui maintient tout le reste ensemble. Or, c'est la clé de voûte qui a été rejetée. Avez-vous remarqué au-dessus? Elle se trouve au-dessus de la pyramide. Et qu'est-ce que ça représente? Quand Enoch l'a construite, voici ce qui s'est produit. C'est exactement comme la progression de l'Église évangélique. Bon, là où c'était large, à la base de la pyramide, ça représentait les premiers jours de la réforme. Le simple fait de vous dire chrétien, de renier l'Église catholique, entraînerait votre mise à mort. Ensuite est venu et eux prêchaient la justification par la foi. Ensuite, maintenant observez encore là ces trois. John Wesley est venu, il a prêché la sanctification, l'Église est devenue une minorité, encore plus, voyez-vous. Il avançait dans cette direction-ci. Ensuite, après l'époque de la sanctification de John Wesley, il y a eu l'Église pentecôtiste et Dieu a fait sortir un reste, alors que chacun acceptait la parole, voyez. Or, quand ça a été autour des pentecôtistes, ça s'est rétréci beaucoup plus parce que c'était la restauration des dons. Elle continuait à prendre forme. Mais qu'en est-il? À la base ici, bien loin de ressembler à la tête en bas. Ici, ça rapprochait un peu plus de la tête. En haut ici, ça rapprochait un peu plus. Mais au fur et à mesure, pour que ça s'ajuste au reste, il faut que ça soit affiné. Cette pyramide, si vous prenez bien une lame de rasoir, vous ne pourriez pas la glisser entre les pierres. Là où il y avait le mortier tellement c'est assemblé avec précision. On a dit que la Temple de Salomon, c'était pareil, voyez. Dieu fait sortir les élus de cette église pentecôtiste, de cet hybride. Il les en retire et mène à terme la parole. Il faut que ce soit tellement proche au point que la parole elle-même se fondra avec cette parole-ci. Voilà la pierre principale qui crie. Grâce, grâce, grâce étonnante, la pierre principale, tenez. C'est comme ceci, voulez-vous? Là, voyez-vous? Comme c'est très large à la base ici. Ça se rapproche toujours plus, toujours plus, toujours plus le ministère. Au bout de quelque temps, voici que ça arrive ici. Luther, la justification d'être justifié. Ici, Wesley arrive, le groupe qui est sanctifié. Ici, le pentecôtiste arrive, la restauration des dons. Maintenant, Dieu est en train d'en faire sortir de là un groupe. Il est en train de l'affiner en vue de le produire un ministère identique à cette parole parce qu'il doit s'ajuster à la parole. Voilà l'épouse. Il l'a fait monter. Or, Christ a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Vous croyez ça? Bon, je peux vous pas expliquer tout ça, ces points. Je vais juste les parcourir en vitesse, me limiter aux points saillants pour que vous ne soyez pas trop, ne soyez pas là trop longtemps. Christ a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable, pas vrai? Vous le croyez tous. Voilà pourquoi. Et qu'est-ce qu'il était? La parole de Dieu qui détruit les œuvres de l'hybride, du diable, pas vrai? Il devait accomplir cela, il est né pour être cela, afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, son corps doit faire la même chose. En effet, le corps, c'est la tête, et le corps, c'est ensemble, pas vrai? Si Christ est la tête et qu'il était la parole, son corps doit être la même chose que sa tête était, pas vrai? Une église, la parole née de la parole, une naissance vierge par la parole, pas par une dénomination, donc une naissance vierge par la parole. Ce qui met le corps en action, c'est la tête, pas vrai? Mon corps ne peut pas bouger tant que ma tête ne lui dit pas de bouger. Eh bien, supposons que ma tête soit faite de chair et que mon corps soit un béton. Ne peut pas bouger. La tête aura beau dire bouge, 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 mais il n'y aura aucun récepteur auquel envoyer le message, pas vrai? Eh bien, si ma tête est Christ et que mon corps est une dénomination, comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Comment est-ce que la pureté et une prostituée pourraient fonctionner ensemble? J'aime ça, frère, je vous le dis. J'aimerais prêcher sur quelques-uns de ces points-là pendant quelques instants. Ce qui met le corps en action, c'est la tête, et la tête est la parole. Pas vrai? La tête est la parole. Maintenant, faites la comparaison avec l'Église contemporaine. Pourquoi est-ce qu'on n'y retrouve pas les miracles? Pourquoi est-ce qu'on n'y retrouve pas la parole? La parole ne peut pas lui être transmise. La dénomination l'arrête, bien sûr. Disons qu'un brave homme de Dieu rempli de la sainteté se présente et prêche la parole de Dieu directement de la Bible du mieux qu'il peut. La dénomination, non, 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 monsieur, sortez-le d'ici, vous voyez. Le corps ne peut pas bouger, voyez. Ça fait teuf, 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 ça s'arrête forcément. Or, le corps exécute les œuvres et continue à exécuter les œuvres. Il fait les œuvres que la tête lui ordonne de faire. Indiquez-moi un seul endroit où il est dit. Organisez-vous, indiquez-moi un seul endroit où la tête, tout est dit. Il n'y a pas de mal à ce que les femmes se coupent les cheveux. Hein, citez-le. Il n'y en a pas. Indiquez-moi un seul endroit où la tête est dit. Je fais ces œuvres, mais vous, vous ne les ferez pas. Indiquez-le-moi. Mais au contraire, voici ce que la tête dit. Si vous voulez noter le passage de l'Écriture, je vous le donne, Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez vous aussi, c'est-à-dire son corps, voyez. Maintenant, voyez-vous pourquoi j'ai été animé d'un tel zèle pour ce qui est de l'espérance de la semence que j'ai plantée pour le corps? La pluie ne va pas tarder à tomber maintenant. Je veux dire la vraie pluie. Et il faut qu'il y ait une semence sur laquelle elle tombe. J'espère que je vivrai assez longtemps pour voir ça. Vous comprenez maintenant? Elle sera la parole vivante telle qu'elle était au commencement. La parole parlée de Dieu. Elle aura sa puissance, car elle est en lui, dans son propre corps, œuvrant selon sa manière de faire à lui. Regardez aux promesses que Dieu a données à ce corps. Maintenant, nous en venons à quelque chose. Nous en venons à la montagne de Sion maintenant. Regardons ce qu'il a dit à ce corps. Je veux dire ce qui a une naissance vierge. Bon, nous voyons les imitations, nous voyons tous les jours. Mais venons-en au vrai corps, voyons ce qu'il en est dit. Regardons ça très bien, voici ce qu'il a promis. Croyez-vous que Jean 3:6 est vrai? Il faut absolument que je le lise, ceci. Un point, c'est tout. Très bien. Tous ceux qui croient à Jean 3:16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et ainsi de suite, dites Amen. Je vous mets au défi d'en croire le reste. Maintenant, je parle du corps. Prenons Jean 20 pour commencer. Très bien. Prenez Jean, chapitre 20, et voyons voir. Jean, chapitre 20, nous allons commencer, oh, je dirais, vers le verset 19. Jean 20, je crois que c'est bien ce que j'ai noté ici. Nous allons commencer au verset 19. Maintenant, écoutez bien. Je vous invite à relever le défi, à croire. Oh, je me sens vraiment bien. Oh, si je pouvais seulement, je voudrais tant voir le Saint-Esprit venir se blottir ici comme ça. Voyez-vous, dire, allons, c'est moi, écoutez. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et quand ses disciples, voyons voir son côté, et quand les disciples furent dans la joie, en voyant le Seigneur, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Oh, êtes-vous prêts? Comme le Père m'a envoyé, il est la parole, la semence parole. Moi aussi, je vous envoie. Vous le croyez? Ne vous arrêtez pas, il y en a plus. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, à eux ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Est-ce que c'est la vérité? À qui a-t-il dit ça? À la semence, à la parole. Pourquoi? Il ne pouvait naître que par la parole. Voilà pourquoi. Vous croyez ça? Maintenant, prenons Matthieu 16 un instant. Matthieu 16, 19. Lisons ça un instant. Très bien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Je vous invite à relever le défi et à croire si ça, ce n'est pas la parole. Jean 3, 16 n'est pas la parole. Pourquoi faudrait-il en prendre une partie et ne pas prendre l'autre? Toute la parole de Dieu est vraie, mais elle doit entrer dans un sein vierge, là où il ne trouve rien d'autre que la semence. Vous le croyez? Très bien. Maintenant, soyez très attentifs à ceci. Je sais que c'est que la prostituée affirme. Effectivement, ils remettent les péchés de par leur pouvoir dénominationnel. Mais regardez leurs enfants! Dans toutes les dancing, elles se coupent les cheveux, sont peinturlurées comme des clowns, et les hommes qui partent vivre avec la femme d'un autre, qui flirtent, qui courent les rues, des bains mixtes et tout le reste, bien sûr, ils pardonnent, ils remettent les péchés à leur manière à eux, mais c'est à leur fruit qu'on peut voir ce qu'il en est. Ce n'est pas vrai dans leur cas. Non, monsieur, qu'est-ce qu'ils font? Elles portent des shorts, elles se coupent les cheveux, elles se maquillent. Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. De quelle espèce de semence ils sont? Voilà, c'est ça. Une semence dénominationnelle accorde un pardon dénominationnel, tout à fait exact. Dieu a dit que la parole soit selon son espèce. Et elle l'est, c'est vrai. Oh, frère, les Écritures sont vraies. Le croyez-vous? Et le Saint-Esprit rend témoignage du don prédestiné que l'Église affirme avoir. Qu'en est-il en arrosant la parole, en ponctuant la parole d'un « Amen » quand il est dit « Répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. » Quand il est dit ces choses, autres choses, Amen. C'est ça, Amen à tout, voyez-vous. Il ponctue la parole et Dieu, comme il a prédestiné que le don allait venir, celui de remettre le péché, mais celui-ci a été donné au corps de la parole rempli de l'Esprit. En effet, il n'y a que la parole qui puisse pardonner les péchés. Parce que la parole est Dieu. Les pharisiens, comme c'était vrai ce matin, j'avais mentionné que nous allions y venir, et j'ai déjà pris tout le temps que j'avais, mais les pharisiens ont dit, « Cet homme pardonne les péchés! Nous savons qu'il est un blasphémateur. Dieu seul peut pardonner les péchés. Et cet homme pardonne les péchés. Il ne savait pas que c'était là la parole. La parole pardonne les péchés, parce qu'elle est Dieu. Et quand vous ne vous appartenez plus, Dieu sait, il le savait, il savait d'avance par sa préscience qui allait recevoir ce don et qui allait l'utiliser correctement. Ceux qui le possédaient sont confirmés par la parole de Dieu et aussi par le reste de la parole et par l'Esprit. Est-ce que c'est clair? Certains voudraient vous faire croire que c'est quelque chose qui obtient par des études, par le savoir, par les diplômes. Si vous allez à l'école pendant tant de temps, si vous devenez évêque et que vous faites des études pour devenir pape, ou vous devenez cardinal ou quelque chose comme ça, c'est que certainement, certains voudraient nous faire croire que c'est de là que ça vient. Quand un homme, par l'imposition des mains, vous donne un titre et qui vous confèrent ce droit, mais ils sont complètement à côté de la parole. Romains 11, 29 dit, « Les dons et les appels sont sans repentance, c'est Dieu qui les donne. » Et aussi Jean 15, 16, si vous voulez le noter, écoutez bien. Maintenant, combien Jésus à son époque était différent des dénominations de son jour? Eux, ils regardaient en arrière, ils se reportaient à lui, comme j'aimerais prendre le temps de m'attarder là-dessus. Ils regardaient en arrière, ils se rapportaient au passé, une époque reculée, et ils disaient, « Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu s'est apparu à Moïse dans le buisson ardent, nous savons. » Et ils savaient et connaissaient l'histoire de Moïse, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de Moïse. En effet, il s'est tenu devant eux dans Jean 6. Il a dit, « Avant que Moïse fût, avant qu'Abraham fût, je suis le buisson ardent. » Ils connaissaient l'histoire de Moïse. C'est pareil aujourd'hui. Ils connaissent le Dieu. Ils prétendent connaître la parole de Christ, mais ils ne connaissent pas le Dieu qui était en Christ. La peinture d'un feu. Qui peut se réchauffer à la peinture d'un feu à une expérience de séminaire? Ils connaissaient Moïse, mais pas son Dieu. Jésus pouvait dire, et il l'a effectivement dit, « Amen, écoutez ceci, frère. Phew. Maintenant, je me sens comme David là-bas. Je fais tournoyer ma fronde. J'espère que vous ne trouvez pas que je commets un sacrilège, là, mes amis. Tout est en ordre, mais je me sens bien, c'est tout. Je commence à me sentir vraiment bien, là. Jésus pouvait dire, il l'a effectivement dit, « Le Père m'a envoyé et est en moi. » Et comme il m'a envoyé, moi aussi je vous envoie à ses disciples. Le Père m'a envoyé et est avec moi et je ne fais pas les œuvres de la parole qui avait été promise par mon Père. Alors ne me croyez pas, en effet, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia! Ô Église, où en êtes-vous? Jésus a dit, ils disent, « Oh, nous savons que Dieu a fait ceci, oui, mais pas aujourd'hui. » Jésus a dit les mêmes, « Nous savons que Dieu était avec Moïse, mais le Dieu qui était avec moi est en moi, en effet. Si vous ne le croyez pas, voyez ce qui est écrit à mon sujet, voyez ce que les Écritures ont dit, que j'allais faire. Si je ne correspond pas aux Écritures, alors ne me croyez pas. » Permettez-moi de dire ceci, pas d'une manière sacrilège, mais permettez-moi de le dire au sujet du message que je prêche. Si Dieu ne confirme pas ce que ceci est la vérité, alors ce n'est pas. Mais si la parole confirme que je vous dis la vérité, alors croyez la parole. Ce sont elles qui rendent témoignage, qui attestent si je dis la vérité ou pas. Ce sont elles le témoignage. Elles rendent témoignage de mon, du ministère qu'il m'a donné. C'est ce qu'il a promis dans les derniers jours. Le voici. Il a annoncé ce qu'il, celui-ci allait produire. Le voici. C'est ce que nous abordons maintenant même. Le voyez? Si c'est la vérité ou pas, que ce soit Dieu qui rende témoignage, si les œuvres, les choses que je prêche ne rendent-elles pas elles-mêmes témoignage de ce que c'est la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Mais si la parole en ceci et la voici, alors qu'est-ce que vous allez en faire? Jésus a dit, je vous connais, vous pensez connaître Moïse, vous connaissez peut-être bien que vous connaissez l'histoire de Moïse, mais vous ne connaissez pas son Dieu, car j'étais avant Moïse, je suis celui qui a parlé à Moïse, je suis le je suis la parole. Ils n'ont pas pu voir ça, parce qu'ils ont pour père le diable. Leurs dénominations n'ont pas voulu les laisser voir ça. Ça n'a pas empêché la parole de continuer à avancer quand même. Et elle est tombée sur quelqu'un. C'est vrai. Et de là est sortie une épouse. Et de cette génération-là, très bien, combien différentes. La peinture d'un feu. Jésus a pu dire, le Père qui m'a envoyé, qu'il était avec lui, et les œuvres que je fais, les, je fais rendre témoignage parce que je fais les choses même que les Écritures avaient dit que je... J'allais faire. Les Juifs connaissaient leur Dieu historique. C'est pareil maintenant. Oui, pourquoi connaissaient-ils le Dieu historique? C'est parce qu'ils avaient la semence historique. Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu, lui? Parce qu'elle était hybridée avec la dénomination. Jésus savait qui l'avait envoyé, car celui qui l'avait envoyé était en lui. Il n'était lié à aucune dénomination. Amen. Dites-moi donc, laquelle? Dans quelle, de quelle école sort-il? Il disait, d'où tient-il cette sagesse? D'où vient ce savoir? Il ne pouvait trouver aucune école où il ne soit jamais allé. Et pourtant, à l'âge de 12 ans, il a confondu les scribes et les pharisiens. Oh là là, c'était un témoignage en soi. Pourquoi ne lui ont-ils rien dit? À lui qui était tout jeune, c'était la parole de Dieu. Il ne pouvait pas s'y opposer. Ce n'est pas étonnant que les gens aient été frappés par sa doctrine. Avez-vous déjà lu ça? Marc 1, 22, si vous voulez le noter. Les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant l'autorité. Il savait de quoi il parlait. Voyez, l'Église devrait maintenant avoir une double portion de l'Esprit. C'est vrai, car les vêtements d'Élie qui est tombé sur Élisée, une double portion, la même est venue de Jésus-Christ. Maintenant, vous dites, « Oh, frère Branham, vous parlez de son Église, c'est vrai, c'est son corps. Ma femme n'était pas une partie de mon corps et votre femme n'était pas une partie de votre corps, chair de votre chair et os de vos os, de votre os, par une union sainte, pas vrai? C'est ça qu'un chrétien ne devrait pas épouser une prostituée, voyez? Ce n'est pas bien. Non, monsieur, parce que là, cela viole toutes les choses de Dieu. Vous dites, et une minute, frère Branham, vous parlez de l'Esprit de Christ qui serait sur... C'est ce que la Bible a annoncé, pas vrai? Dans Ésaïe 9, 6, il est dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On appellera son nom conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, et son royaume n'aura pas de fin, et le gouvernement sera sur son... » Quoi? C'est une partie de son corps. Oh, c'est son corps, n'est-ce pas? Ses épaules, c'est son corps. Le gouvernement, où est-il? Sur la terre, dans son corps. Les saints jugeront la terre, pas vrai? Paul a dit, je vous défends d'engager des poursuites les uns contre les autres au lieu de plaider devant l'Église. C'est vrai, voyez? Les saints jugeront la terre. Où se trouvera le gouvernement? Sur quoi? Sur les épaules. Sur son corps, le gouvernement, sur ses épaules. C'est une partie du corps. Qu'est-ce que c'est? Sa force terrestre. La force terrestre de Dieu, c'est la parole faite chair dans son corps, ici sur terre, par lequel elle s'accomplit. Moïse, écoutez, on va en laisser un peu de côté. Les messagers de Dieu ont toujours été rejetés, vous croyez ça? Moïse a été rejeté, pas vrai? Jésus a été rejeté et Luc a dit, dans 10, 16, si vous voulez le noter, très bien, rejeté. 1 Samuel 8, 7, le message de Dieu a été rejeté. Dieu avait un messager, un prophète du nom de Samuel, vous croyez ça? Ils l'ont rejeté, lui et son message, ils ont peut-être opté pour le monde. Ceci est une loi de Dieu. Voici quelque chose qui va, je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé Prenons donc une minute pour prouver ça. Je veux prendre un passage de l'Écriture ici, Jean 13, 20. Voyons un peu. J'ai quelque chose ici à noter qui m'est venu à l'esprit juste à ce moment-là. Oh oui, voilà. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Un serviteur confirmé. Oh, frère, juste là, il y aura un millier de prédicateurs à faire maintenant. Vous voyez? C'est vrai. Oh là là, c'est la loi de Dieu. Recevez-le. Cela. Samuel est allé là-bas. Il a dit, je voudrais vous demander quelque chose. Vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas accompli? Ils ont dit non. Ai-je déjà ramassé des offrandes pour construire des grands bâtiments ou pour faire beaucoup de grandes choses et m'en glorifier? Non. Est-ce que Dieu l'a prouvé qu'il exauce la parole que je prononce? Oui. Eh bien, pourquoi ne m'écoutez-vous pas? Jésus a dit aux pharisiens, nous savons que tu es né de la fornication. Il a dit, qui de vous peut me déclarer coupable de péché? Je vais vous montrer la parole de Dieu. Voyez si vous le croirez. Voyez si Dieu la confirmera en vous. Que je parle de moi-même. Si je parle de moi-même, je suis un menteur. Mais si je parle de Dieu et que Dieu parle à travers moi, que la parole, alors c'est la vérité. Alors, qui est celui qui croit la parole de Dieu? Moi ou vous? Ah, avec ça, c'était classé. Jésus, celui qui croit en, reçoit ce que j'envoie, me reçoit ce que lui, il envoie, et ceux qui me reçoivent, reçoivent celui qui m'a envoyé. J'aurais aimé qu'on ait le temps de s'attarder là-dessus. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous pouvez seulement servir Dieu. Dans la mesure où vous le faites et vous croyez le serviteur que Dieu envoie. Vous pouvez seulement servir Dieu sur terre, voyez-vous. Dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur terre vous interprètent la parole par inspiration divine. Vous croyez ça? Vous voulez noter des passages de l'Écriture qui appuient ça? 1 Corinthiens 14, 16. Paul a dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Dans 11, 1. Aussi, Luc 10, 16. Voyez ce qu'il a dit. Ce que Jésus a dit, Luc 10, 16. Je crois que vous êtes tous près de celui-ci. Voyons ce qui est dit. Cette fois, Luc 10, 16, pendant qu'ils prennent les autres en note, voyons, c'est ici, 1 Corinthiens 14, 16, et aussi 11, 1, et Luc 10, 16. Maintenant, lisons, je vais prendre Luc 10, 16 ici, juste pour le lire, pendant que vous regardez l'autre un petit instant, et très bien, nous y voilà. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Voilà la preuve que Dieu prononce son message à travers ses serviteurs. Il l'a toujours fait, c'est vrai. Maintenant, le pouvoir de l'Église qui croit Christ possédait tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Vous croyez ça? Maintenant, supposons qu'il soit en vous. Est-ce que Christ possède tout pouvoir? Matthieu 28, 18. Très bien. Il est la parole semence dans son corps. Ainsi, lui en nous, c'est alors la parole semence en nous. Qu'en est-il? Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, et tout ce que Christ était a été déversé dans l'Église. Le pouvoir, c'est ça. Maintenant, regardez bien. Souvenez-vous de la loi de la reproduction de Dieu maintenant. Souvenez-vous, selon son espèce, pas vrai? La semence de Christ, la parole, doit être transmise par son corps. La fatigue commence à vous gagner? Très bien, un petit instant là. Restons bien tranquilles et prions. Je veux vraiment faire pénétrer ça comme il faut. Je veux que ce soit bien enfoncé. La semence de Christ doit... D-O-I-T doit être transmise par son corps, non pas par une dénomination, mais c'est par une semence de la parole née de nouveau qu'elle doit être transmise. Maintenant, souvenez-vous, qu'est-ce que la semence de Christ? Comment ma semence se transmet-elle? Par le corps. Comment la semence de pommier se transmet-elle? Par le corps. La semence est transmise par le corps et l'Église est le corps de Christ. Pas vrai? L'Église de la Bible, cette naissance, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le produit lui-même dans un corps, son Église, et il s'agit de sa parole pour que les gens puissent voir la confirmation de Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous le croyez? Or, ceux-là ne sont pas des hybrides dénominationnels. Ce sont ceux qui sont dans l'orbite, qui attendent le compte à rebours. Vous savez ce que je veux dire? Qui se préparent à monter en chandelle. Gloire! Ceux-là ne sont pas des hypocrites dénominationnels, pas ceux qui sont ici, à l'intérieur. Ça, non. Non, monsieur, il s'agit de la semence. Paul craignait que les gens regardent à toutes sortes de grands mots qu'ils auraient pu prononcer à quelques produits de son introduction, 1 Corinthiens 2, 1 à 8. Si vous voulez le noter, dans 1 Corinthiens 2, 1 à 8, Paul a dit, « Je ne suis jamais venu auprès de vous en prononçant des paroles intellectuelles, vous savez, afin que votre foi soit fondée sur quelque chose qui viendrait d'un séminaire. Mais je suis venu auprès de vous dans la simplicité avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, afin que votre parole, que votre foi soit fondée sur la parole de Dieu. » Oui, monsieur. Bien que les églises dénominationnelles soient mille fois plus nombreuses que l'épouse, croyez-vous ça? Croyez-vous que c'est ce que la Bible enseigne? Ésaïe 54, 1. Il l'a promis. Ça l'est. Est-ce que vous voulez que je le lise? Très bien, prenons-le. Si vous voulez voir le passage où il l'a promis qu'il serait plus nombreux, allons prendre Ésaïe 54. 53, 54, 1.
53, 54, 1.
Exulte stérile, qui n'enfante pas. Éclate en chant de triomphe et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas été en travail, car les enfants de la désolée sont plus nombreux que les enfants de la femme mariée, dit l'Éternel. Pas vrai? Les enfants de la prostituée sont plus nombreux que ceux de la femme mariée. Bien sûr, ils sont bien des fois plus nombreux que nous. Bien sûr qu'ils nous surpassent en nombre. Ils n'ont pas un vrai père. Or, les espèces dénominationnelles sont représentées dans Jude 8, 13. Ça, c'est l'Église matérialiste. Des nuages sans pluie, rejetant l'écume de leurs impuretés, l'Église pentecôtiste, ce groupe dénominationnel-là, est représenté dans 2 Timothée 3, 1 à 8. Ayant l'apparence de la piété, leur semence produit leur espèce. Remarquez l'eunuque. Oh, maintenant, nous allons aborder quelque chose de profond ici. Maintenant, observez cette église semence, cette vraie église qui a la véritable sperme. Remarquez, l'eunuque avait côtoyé tous les docteurs en théologie. Maintenant, souvenez-vous, Dieu n'a jamais confié sa prédication à son évangile à un ange. Combien savent ça? Combien savent que Galates 1, 8 dit, si un ange venait du ciel prêcher un autre évangile que ce que j'ai prêché, qu'il soit anathème. Donc, l'ange est faux. S'il diffère d'avec la parole, Dieu est descendu encore plus bas que les anges. Il a confié cela à l'homme qui était des fils. Vous croyez ça? Maintenant, regardez bien. Donc, il n'a jamais confié cela aux anges. Remarquez, il n'a pas fait ça. Or, Philippe avait été à la Pentecôte à Jérusalem pour y adorer. Combien disent amen à ça? L'eunuque, il avait été avec tous les docteurs en théologie, les docteurs en droit et tout. Mais pourquoi n'avait-il rien reçu? Il s'en retournait en étudiant la prophétie d'Ésaïe, bien qu'un ange ait dirigé Philippe vers lui. Il fallait quand même que la germe de vie soit transmise par le corps, par Philippe. Ah, oh frère, maintenant, nous alignons parfaitement. D'où est venu le germe? A-t-il été transmis par l'ange? L'ange lui a indiqué où aller. Un ange est un messager. Ici, il y a un fils. Philippe avait le germe. Le message, la parole. Voilà comment un enfant peut naître. Philippe lui a posé les mains. Philippe l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est de là que l'Esprit de Dieu est venu. Bien sûr. Or le germe devait venir du corps. Quel corps? Le corps de Christ. C'est exact. Et Philippe était un membre du corps. Maintenant, écoutez, la même chose s'est produite dans Actes 10, 48. Pierre était sur le toit. Un ange l'a dirigé vers la maison de Corneille. Mais d'où la parole est-elle venue? Du corps. Oh, 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 oh. Je me sens vraiment bien. J'ai envie de cheminer. Un ange est venu et a dit, ne t'inquiète pas, ne regarde rien comme souillé. Allez, va, ne t'imagine rien. Et comme Pierre prononçait ces paroles, pas l'ange, pas le cardinal, comme Pierre prononçait ces paroles, qu'est-ce? Il était le corps. Il avait la parole. La parole s'était plantée. Oh, frère. Oh, oh là là. L'ange a dirigé la chose, mais la vie a été transmise par le corps de Christ. Paul, en route vers Damas, une vision l'a dirigé, mais c'est Anania qui avait le germe, qui avait la parole. Amen. Ce prophète, Anania, a une vision où il lui a été dit, « Va là-bas, lui a posé les mains. » Il a dit, « Saul, mon frère, le Seigneur t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Comment le servait-il? » Il avait la parole du Seigneur est venue au prophète. Il a prophétisé, il est allé là-bas, il a dit, « Il est venu, il m'a envoyé ici pour que je t'impose les mains, que tu sois guéri, que tu reçoives le Saint-Esprit. Recouvre la vue. Les écailles sont tombées de ses yeux, il s'est levé, il a été baptisé au nom de Jésus, il est parti étudier. » Un ange avait dirigé la chose, c'est vrai, mais c'est Paul qui avait le germe de la semence. Il faut l'Esprit de Dieu, la semence, pour donner la vie éternelle. Est-ce qu'il est déjà 2 heures? Je sais. Je vais lire quelque chose, alors permettez-moi de lire pendant seulement une dizaine de minutes, d'accord? Je sais que je pourrais très bien m'attarder là-dessus, mais vraiment, il vaut mieux avancer encore un peu. Ici, nous avons pris le temps et que nous avions. Il est 5h moins 25. Je ne sais pas à quelle heure nous arriverons en Géorgie. J'aurais voulu pouvoir m'arrêter et commencer un petit peu ceci, mais je vais juste le lire très lentement. Écoutez bien. Voici pourquoi j'ai pris la plume, une partie de ça. Est-ce que vous voyez, mes amis, pourquoi j'ai pris position comme je l'ai fait? Voyez-vous pourquoi je combats pour ça? Éloignez-vous de ces dénominations et trouvez une vraie Église de Dieu. Voyez-vous pourquoi il faut que cela provienne de la parole? Cela ne peut pas s'obtenir par la sagesse de l'homme. Cela doit s'obtenir par la parole de Dieu. C'est pour ça que je crois que la parole exactement telle qu'elle est écrite. Je n'ajouterai jamais rien, ni retrancherai rien. Je la prêcherai telle qu'elle... Simplement, et je continuerai à avancer. Maintenant, frère, vous qui écoutez la bande, si vous êtes en désaccord avec moi, je prierai pour vous. Si je suis dans l'erreur, priez pour moi. Je vais en lire une partie maintenant, seulement je veux que vous écoutiez très attentivement ceci. C'est là que l'Esprit a dit, prends la plume. Je serai obligé d'en laisser de côté, mais il faut que je vous en apporte une partie. Très bien. Maintenant, voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction, produire selon son espèce. Genèse 1, 11. En ces derniers jours, la véritable épouse Église viendra à la pierre principale. Elle sera la super Église, une super race. Alors que, en s'approchant de cette grande pierre principale, ils seront semblables à lui, tellement semblables à lui, qu'ils seront exactement à son image. Ce, en vue d'être unis à lui, ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole de Dieu vivant. Les dénominations ne pourront jamais produire ceci. Ce sera, elles produiront leur credo et leur donne mêlée à la parole. Et ceci aboutit à un produit hybride. Le premier fils était une parole semence prononcée par Dieu. Il lui a été donné une épouse. Je récapitule ici, l'Esprit reprend ce que j'ai dit, voyez, une épouse produit pour qu'il se reproduise. Elle est tombée, voyez-vous. C'est pour ça que l'épouse a été donnée, pour qu'elle se reproduise, qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée par l'hybridation, voyez-vous, pour qu'il se reproduise. Mais elle est tombée, elle la conduise à la mort. Le deuxième fils, une parole semence prononcée par Dieu. Il lui a été donné une épouse, tout comme Adam. Mais avant qu'elle puisse l'épouser, elle aussi est tombée en effet. En effet, il lui avait été donné le libre arbitre comme à la femme d'Adam. Elle pouvait croire la parole de Dieu et vivre ou bien en douter et mourir. Elle a douté. Alors, d'un petit groupe de la véritable semence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et c'est à travers eux et par eux que s'accomplira dans cette vierge qui ne connaît aucun credo ni aucun dôme fait de main d'homme tout ce qui a été promis par sa parole. La parole de la promesse en lui-même, telle qu'elle était en Marie, Dieu lui-même manifesté. Il agira lui-même sur sa parole, sa propre parole de promesse, ce afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui, comme il l'avait fait quand il est sorti du sein vierge, un type du sein spirituel de maintenant. Il en sera de même de la vierge qui accepte maintenant sa parole. Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit, bien que ce fût dit par un ange. C'était pourtant encore la parole écrite, Ésaïe 9:6. Ils aimeront ses. Ils auront toutes ses capacités, car il est leur tête, et ils sont ses sujets, soumis à sa tête. Les siens sont sous la direction de Christ. Remarquez quelle harmonie. Jésus ne faisait jamais rien qu'il n'ait d'abord vu faire au Père ou qui ne lui ait d'abord été montré par le Père. L'harmonie entre Dieu et Christ, voyez-vous? Jean 5, 19. Il en serait de même de l'épouse et lui montrera sa parole de vie. C'est lui qui la lui montre. Et elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. Rien ne peut lui nuire, pas même la mort. En effet, si la semence est mise en terre, l'eau la ramènera à la vie. Amen. Et là, j'ai mis un gros alléluia. Voici le secret. La parole est dans l'épouse. Ainsi que la pensée de Christ, afin de savoir qu'il veut qu'on fasse ce qu'il veut qu'on fasse de la parole. Et elle le fait en son nom. Et elle a l'ainsi dit le Seigneur. Ensuite, la parole étant fécondée, alors le Saint-Esprit l'arrose jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à sa pleine croissance et qu'elle ait accompli son but. Ils font uniquement sa volonté. Amen. Oui, je crois ça. Personne ne peut la convaincre de faire autre chose. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur, ou alors ils restent tranquilles. Alors ils feront les œuvres de Dieu, car c'est lui-même en eux qui continue à accomplir sa parole comme il l'avait menée à terme à son époque. Toutes choses quand ils étaient ici, il n'a pas tout même mené à terme quand ils étaient ici, ce que n'était pas encore le moment. Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et de Caleb. Maintenant, soyez attentifs, ceci s'inscrira dans un contexte spirituel. Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et de Caleb alors que nous le voyons, le pays promis qui a commencé à se profiler à l'horizon. Le moment est proche où il nous sera donné Josué. En hébreu, signifie « sauveur » et il représente le conducteur promis du temps de la fin qui doit amener l'Église de l'autre côté. Caleb représentait le vrai croyant qui est resté avec Josué. Dieu avait fait naître Israël comme une vierge avec sa parole, mais il voulait autre chose. Il en est de même pour l'Église de ce dernier jour. Remarquez bien que Dieu n'a pas fait avancer Israël avant le moment qu'il avait lui-même prévu. Maintenant, écoutez, ceci va avoir une signification. Josué a attendu ce moment-là. Peu importe, les gens avaient beau dire, Dieu nous a donné le pays. La promesse. Allons-y maintenant, parlons-nous-en. Ils avaient beau dire, Josué, tu as perdu ta commission. Tu es un homme fini. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Avant, tu agissais, tu savais tout de suite ce qui était, ainsi dit le Seigneur, et ce qui était la volonté de Dieu. Mais ce prophète sage, envoyé de Dieu, il connaissait la promesse de Dieu, mais il savait aussi attendre cette promesse. Une décision claire et nette de la part de Dieu, lui indiquant que le moment était venu pour lui d'agir. Vous voyez ces paraboles maintenant, regardez bien, une fois le moment venu, Dieu a tout remis entre les mains de Josué qui était resté avec lui, qui s'en était tenu à la parole. En effet, il ne pouvait pas faire confiance aux autres. À lui, il pouvait faire confiance. Ceci se reproduira. De même, le puissant prophète oint Moïse savait que Dieu allait l'utiliser. En effet, il avait prouvé que Moïse était son serviteur par sa naissance particulière au bon moment, au moment prévu pour la délivrance de la semence d'Abraham. Vous saisissez? Moïse n'est pas resté en Égypte à discuter avec eux des points de l'Écriture. Il n'a pas fait d'histoire aux prêtres, mais il est parti dans le désert et il s'est attendu au Seigneur jusqu'à ce que le peuple soit prêt à le recevoir. Il était venu leur rendre témoignage, mais il n'avait pas voulu le recevoir. Dieu a envoyé son prophète dans le désert. Dieu avait rendu témoignage qu'il l'avait choisi. Mais l'attente n'était pas due à Moïse, mais aux gens qui devaient être prêts à recevoir Moïse. Moïse pensait que les enfants comprendraient qu'il avait été envoyé. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui. C'est pareil maintenant. De même, Élie, après que ce puissant prophète confirmé à qui la parole de Dieu est venue et a prêché son message au groupe moderne, à l'américaine, de la première dame du pays, avec leurs cheveux coupés courts, au groupe maquillé, à la Jézabel, Dieu avait confirmé son prophète chaque fois qu'il prophétisait. C'était la vérité. Dieu a été forcé de lui faire quitter le champ de travail jusqu'à ce qu'il ait frappé cette génération d'un puissant fléau pour avoir rejeté le message de son prophète et de la parole de Dieu qu'il leur avait envoyé. Dieu l'a envoyé se cacher dans le désert et pas même le roi n'a pu l'en faire sortir. Et ceux qui ont essayé de le persuader d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu sont morts pour l'avoir fait. Oh Dieu! Ouh. Et quand Dieu a parlé à son prophète fidèle par une vision, il est sorti du désert avec un « ainsi dit le Seigneur ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à la parole, tout droit à la parole. Il a roulé les 12 pierres, les a rassemblées. De même, Jean-Baptiste, le fidèle précurseur de Christ, le prophète oint. Aucune école de son père, aucune école de pharisiens, aucune dénomination n'a pu le faire sortir du désert où Dieu l'avait envoyé tant qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu. Le Messie est proche. Es-tu à l'écoute, pensée spirituelle? Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ici? Maintenant, je saute quelque chose ici. comme c'est différent aujourd'hui. Beaucoup de soi-disant évangélistes affirment qu'ils ont reçu la réponse de la part de Dieu pour les gens, tout comme Corée, qui niait, qui contestait l'autorité de Moïse, le prophète de Dieu, et confirmé en affirmant que c'est lui qui avait la réponse. Là encore, c'était une combine lucrative, un veau d'or. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Un grand bâtiment, une grande école, des couvoirs d'incubation de la même semence qu'eux. Et alors les gens, à cette époque-là, comme maintenant, s'ils sont laissés prendre après avoir entendu la véritable parole de Dieu, à travers un prophète ouin qui avait été confirmé, ils se sont laissés prendre au mensonge de Corée. Le prophète authentifié par Dieu, et Dieu savait, et il savait que Dieu leur avait dit, Israël savait que Dieu leur avait dit expressément qu'il confirmerait ses prophètes par sa parole. Corée n'était pas un prophète conforme à l'Écriture. Mais la chose faisait très bonne impression aux gens. Et c'est pareil maintenant. Aujourd'hui, c'est du sang sur les mains, des boules de feu sur l'estrade, de l'huile sur les doigts, et le produit de cela des femmes prédicateurs, des cheveux courts, coupés courts, du maquillage, vous vous retrouvez avec quoi? On ne croirait pas que les gens se laisseraient prendre à ces choses, mais ils sont laissés prendre par Corée. Ils font la même chose maintenant. Ils abandonnent la véritable parole pour se retourner vers des dénominations. Des shorts, ça montre quelle espèce de semence il y en a en eux. Mais Dieu merci, ce n'est pas tout Israël qui s'est laissé prendre par Corée. Quelques-uns sont restés avec Moïse, le prophète oint qui avait la parole de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Pour de nombreux élus de Dieu, avec sa parole et son esprit, souvenez-vous, l'ivraie, les mauvaises herbes doivent être rassemblées et liées en gerbes, pas vrai? Ceci s'est accompli. Les églises organisées apostates sont liées plus solidement qu'elles ne l'ont jamais été. Elles se sont rassemblées pour former une fédération d'églises prête pour le feu du jugement de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ceci. Je considère que c'est lui. Chez les pentecôtistes, c'est plein de soi-disant, autant que chez celle-là, la parole blé sera rassemblée un jour après leur départ pour être avec leur maître. Dieu a promis, attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ce dernier jour. Et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli, mais cela doit s'accomplir, car c'est une parole de Dieu fécondée, prononcée à travers Malachie, le prophète. Jésus y a fait référence, cela doit arriver juste avant la venue de Christ, la deuxième fois. Maintenant, écoutez bien. Toutes les Écritures qui ne sont pas accomplies devront l'être. Avant ce moment-là, la Bible doit être menée à terme et être menée à terme. La dispensation des nations doit être menée à terme avec l'âge des églises quand ce message arrivera. Bien entendu, ils planteront la semence de la Bible entière. Il plantera la semence de la Bible entière, du serpent jusqu'au messager dans la pluie de la première saison. Après quoi, il sera rejeté par les gens des dénominations, tout comme son prédécesseur, Jean et Élie, comme l'avait annoncé notre Seigneur. Les gens, comme ils en étaient, il en a été d'Élie la première fois, à l'époque d'Akab, c'est ce qui arriva ici dans ce pays, puisque ce pays est un type d'Israël. Lisez ou écoutez la religion de Jézabel. Comme ce pays, alors que nos prédécesseurs, pour pouvoir exercer leur culte, comme ils l'entendaient, sont venus dans ce pays et en ont expulsé les Autochtones, ils en ont pris possession. Israël aussi, ils ont pris possession du pays après qu'ils sont sortis d'Égypte. Nous avons eu des hommes saints comme Washington, Lincoln et eux ont eu de grands hommes, des hommes saints comme David et ainsi de suite. Ensuite, ils ont mis sur le trône un Akab avec derrière lui une Jézabel pour la diriger. Nous avons la même chose. Donc, c'est à cette époque-ci, dans ce pays-ci, que cette personne paraîtra. Car c'est dans l'Écriture et c'est ainsi dit le Seigneur. Ensuite, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une épreuve de force comme celle de la montagne du Carmel. La Bible qui accomplit à la lettre. Jean-Baptiste, son messager devant sa face de Malachie 3, il a planté une pluie de la première saison et il a été rejeté par les églises, par les dénominations, les pharisiens et les sadducéens de son époque. Jésus est venu, il a eu l'épreuve de force de la montagne de la transfiguration. Ce précurseur des derniers jours sèmera pour la pluie de la première saison. Jésus sera l'épreuve de force face aux dénominations et aux credos. Il est sa parole. Quand il viendra, il aura une épreuve de force, l'enlèvement de son épouse. La première a été celle de la montagne du Carmel. La deuxième a été celle de la montagne de la Transfiguration. La troisième sera celle de la montagne de Sion. Gloire! Le comportement d'Élie, le comportement de Moïse, le comportement de Jean, qui se retiraient de leur champ de travail, bien des gens ne les ont pas compris. C'était parce qu'ils avaient été rejetés. Eux et leur message. La semence avait été semée, le jugement allait suivre. Et ils avaient été un signe pour les gens de la part de Dieu pour indiquer que le jugement était proche. Les semailles étaient terminées. Je crois qu'un jour, la vraie épouse de Christ sera contrainte d'arrêter de prêcher la parole de Dieu. La Bible prophétise à ce sujet dans Apocalypse 13, 16, si vous voulez le noter. Les dénominations la contraindront à arrêter ou sinon à accepter sa marque. C'est alors que l'agneau emportera son épouse et jugera la prostituée à cause de cela. Souvenez-vous Moïse, qui était né pour accomplir l'œuvre, a dû s'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il ait reçu le don supplémentaire qui lui permettait d'exécuter la tâche. Il a dû retourner et attendre le temps fixé par Dieu. Il fallait qu'un certain pharaon soit sur le trône, il fallait que le peuple réclame le pain de vie avant que Dieu fasse revenir Moïse. Maintenant, des milliers de gens opèrent des signes en ces derniers jours, ce qui a créé une génération de chercheurs de signes qui ne connaissent rien du tout du véritable mouvement de Dieu ni de sa parole en ces derniers jours. Comme je l'ai dit, présentez-leur le sang et de l'huile et des dénominations charnelles sur l'estrade et ils appuieront cela, que ce soit la parole de Dieu ou pas. Que ce soit conforme à l'Écriture ou pas, Jésus nous avertit que ces choses allaient arriver au temps de la fin, comme je l'ai dit dans Matthieu 24. Deux esprits très semblables. Cela séduirait même les élus si c'était possible. Comment les distinguer l'un de l'autre? Passez-les au test de la parole. Comment les reconnaître? Prononcez la parole. Voyez ce qu'ils en diront. S'ils ne croient pas la parole, ils n'ont pas le germe de la semence en eux. Ils sont du malin. Ils vous séduisent comme la première épouse a été séduite et que la deuxième épouse a été séduite. Ils séduisent la troisième épouse en hybridant la parole ou en essayant de la faire. Dieu n'a jamais fait passer les signes avant sa parole. Amen, celle-là, elle écorche vraiment. Dieu n'a jamais fait passer les signes avant sa parole. Ils ont été ajoutés pour servir de preuve à la parole, mais c'est la parole qui vient en premier. Pour le prouver, Élie a dit à la femme, « Fais-moi d'abord un gâteau. Regardez ensuite le miracle se produire. Venez d'abord à la parole et regardez ensuite le miracle. C'est à la parole semence, elle-même, que le Saint-Esprit donne de l'énergie. Comment un messager envoyé de Dieu pourrait-il ne croire qu'une partie de l'Écriture et pas toute la parole? En nier une partie. Le véritable prophète de Dieu proclamera la parole. Dans les derniers jours, les dénominations le haïront. Il n'épargnera aucune d'elles. Il sera tel qu'il était quand il est venu lors de la première venue de Christ, race de vipères. Mais ceux qui ont été prédestinés entendront et se prépareront pour le compte à rebours. La semence royale, la foi d'Abraham, comme celui-ci, qui s'en est tenu à la parole de Dieu, en dépit de tout, car il avait été prédestiné. Le messager de Malachie 4 paraîtra au temps fixé. Par Dieu, nous l'attendons tous. Nous croyons qu'il viendra, c'est selon sa parole, ce sera au temps de la fin. C'est donc maintenant l'heure de voir cela. Il sera parfaitement consacré à la parole, comme ils l'ont toujours été désignés dans la parole de Dieu et confirmé. Dieu confirmera que ce qu'il prêche est la vérité, comme il l'avait fait dans le cas d'Élie. En effet, il s'agit d'Élie qui vient faire les préparatifs pour l'enlèvement de la montagne de Sion. Jésus a dit que dans les derniers jours, ce serait comme du temps de Lot. Sa prédication sera revêtue de l'esprit de force, étant bien alignée sur la parole de Dieu. À cause de tout ce qu'on aura fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup ne comprendront pas ce message véritable. Ce que j'ai écrit ici, c'est P-R-O-P-H-E-A-C-T-I-E, prophétie. À cause de tout ce que des imposteurs auront fait passer pour la vérité de Dieu, beaucoup de véritables serviteurs de Dieu ne comprendront pas ce messager. Ainsi, les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois, comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu! » Le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux et l'apparition de Jésus se crie, Voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres. Que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Il vaut mieux que je m'arrête juste ici. Est-ce que vous croyez? Pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? C'est la parole, mon ami. Ceci a duré environ 6 heures, tout près, 5 heures et demie ou 6 heures. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais sûrement, déjà, maintenant, le Saint-Esprit a fait descendre cela tellement profondément en vous que vous savez de quoi je parle. Nous sommes au temps de la fin. Les semences sont maintenant semées. La pluie de l'arrière-saison ne va pas tarder à venir. Souvenez-vous, très bientôt, il y aura un si grand rassemblement des dénominations que ce sera renversant. Et elles formeront ensemble cette fédération des églises. Et alors, ce genre d'église, s'y sera forcé de cesser ses activités, du moins, c'est ce qu'elles croiront. C'est à ce moment-là que Jésus apparaîtra et montrera qui est de l'épouse et qui ne l'est pas. Et souvenez-vous, mes amis chrétiens, je suis un homme. Je peux faire des erreurs. Toutes les paroles qui ont été écrites doivent s'accomplir. Jésus l'a dit. Alors, il y a des choses ici dans l'Écriture qui doivent s'accomplir et celle-là en est une. Ce boycottage qui doit venir, mais avant que ce boycottage qui est la marque de la bête puisse venir, il faut qu'une semence soit semée pour que Dieu fasse sortir de là une église. Vous comprenez maintenant? Une semence doit être semer une semence de dénomination qui, elles, feront une forme ou une image à la bête, l'Église de Rome. Et il faut qu'il y ait une véritable épouse. Et nous comprenons que la prétendue épouse est rejetée. L'épouse d'Adam a été rejetée. Elle n'a pas pu produire la vie. Elle a produit la mort. Nous en sommes le résultat, notre corps. Nous mourrons tous. Regardez de quoi nous avons l'air. Vous pouvez le constater. L'épouse de Jéhovah est morte. Il l'a divorcée d'avec elle. Et il a fait sortir du milieu des nations un peuple pour qu'il porte son nom. Pas vrai, son nom comme une femme qui prend le nom d'un homme, son époux. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? La même chose qu'elle avait fait à l'autre moment, elle a formé une dénomination, elle s'est corrompue. Et dans chaque génération, chaque réveil produit un prophète de Dieu. Un prophète, c'est un prédicateur, un vrai prédicateur qui ne s'écarte pas de la parole, qui s'en tient à la parole. Et ce sont eux qui produisent un réveil, qui rassemblent les élus. Et de cette génération-là, après quoi, elle se dégrade. Et Dieu ne l'utilise plus jamais. Je demande à n'importe quel théologien, à n'importe quel historien de me citer une seule fois où une dénomination se soit relevée, jamais. Elle est morte quand elle s'est formée en dénomination. Et elle est restée là. Je pense à Dwight Moody, l'Institut biblique Moody, tout ce qu'il y a de plus mort. Je pense aux méthodistes, aux pentecôtistes, aux presbytériens, aux luthériens, aux nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, aux hommes saints ont paru Buddy Robinson et George Whitefield et tous ces grands hommes et ces hommes saints qui ont prêché l'Évangile. Et cette génération recevait la semence qui était semée, la partie qui lui était destinée, comme le maïs. Que ce soit la tige, que ce soit la feuille, que ce soit l'aigrette, que ce soit le grain, quoi que ce soit, ce serviteur de Dieu apportait la parole de ce jour-là. Celle-ci lançait l'appel aux quatre vents de la terre et emportait les élus de cette génération-là. C'est par ces élus qu'a été construite la maison du Dieu vivant. Maintenant, ce ministère-ci doit être affiné à un point tel que les œuvres même de Jésus-Christ seront produites parce que quand il viendra, la pierre principale descendra. S'y implanter, en effet, il y a un enlèvement et ils seront emportés. Le reste du corps viendra avec elle et l'épouse sera partie du ciel. Pas une dénomination, mon ami. Une église de la parole de Dieu. Vous le croyez? Il y a des mouchoirs ici. Maintenant, je pars. Je pars, je ne sais où. Comme vous, je cherche la volonté de Dieu. Je voudrais bien pouvoir rester à ce tabernacle. Je ne peux pas. Il y en a des milliers. J'entends leurs cris, l'esprit impur qui les déchire. Je n'arrive pratiquement plus à dormir. J'entends les petits-enfants qui pleurent et je vois les mamans qui poussent leurs enfants pour les faire passer dans la ligne de prière. Je vois une maman qui évente un bébé qui tient un drap sur lui pour le protéger de la pluie. Et dans la cour, mon cœur saigne pour eux. Quand j'ai construit ce tabernacle, le jour où j'ai posé la pierre angulaire là-bas, je me souviens de la vision que j'ai eue ce matin-là. Elle est écrite là dans la pierre angulaire. Il a dit, « Ceci n'est pas ton tabernacle. » Il a dit, « Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Je l'aime. J'aime les enfants de Dieu partout. » Je ne sais pas où il va me conduire. Je ne sais pas. J'attends, il y a un an que j'attends, il se peut que j'attende 2 ans, il se peut que j'attende 3 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera le prochain pas à faire, j'attends. Mais je pense que selon l'Écriture, la parole a été semée. Ensuite, c'est l'Esprit qui doit se déverser. Billy Graham aura beau prêcher partout, Oral Roberts, ses hommes saints auront beau prêcher partout, il se pourrait que le Seigneur m'envoie semer de la semence ailleurs, dans un champ quelque part. Mais je crois que notre nation à nous est entièrement ensemencée. Je crois qu'elle est maintenant prête pour la moisson. Quand l'Esprit sera déversé, que le mouvement s'amorcera parmi les gens, tout de suite, ceux des nations vont se rassembler. Aussi sûr que je suis derrière la chair de l'Église de Dieu sera évincée. Ils vont faire tellement de vacarme avec tout ça. Ils vont se réduire dans une confédération de boycottés. Tous ceux qui ne sont pas rattachés à eux, Rome gouvernera le monde pendant 1 heure seulement. Elle gouvernera pendant un petit bout de temps. Pas le communiste, c'est le romaniste qui gouvernera le monde. Avec la collaboration du protestantisme par une église de forme dénominationnelle, ce que Dieu a rejeté, ça c'est la parole de Dieu, du mieux que je la connaisse. Je vous aime, je vous apprécie. Peut-être que je reviendrai peut-être dimanche prochain, je descends en Floride maintenant, si le Seigneur le veut, en Georgie. Pour demain soir, j'aurai quelques réunions ici et là, si le Seigneur conduit. Ainsi, j'en ai un carnet tout plein que Frère Robertson ou Borders m'a envoyé l'autre jour. Je pense qu'il y a bien, il y a des endroits où 30 ou même 40 églises sont prêtes à collaborer, mais on dirait que l'Esprit me retient. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Alors, priez pour moi, je prierai pour vous, pour qu'ensemble nous tenions ferme, que Dieu nous aide, qu'il n'y ait pas un seul d'entre vous ici qui échoue et qui passe à côté de ce grand moment à venir. Maintenant, on m'a accusé de bien des choses, mes amis. Il y a bien des choses dont je suis coupable. Je suis négligent, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il faut que quelqu'un me mette au pied du mur, m'oblige à me battre. Je ne sais pas, c'est une nature. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire, non pas volontairement, mais j'ai été pris là-dedans. Et c'est ça qui me fait si peur en voyant ce qui est dans ce jour-ci, du jour où nous vivons. Et maintenant, vous voyez ce que je crois. Je veux que Dieu me parle, si possible. Avant de faire un pas, voyez-vous, parce que je ne veux pas le décevoir. Je veux être avec lui partout et je voudrais que vous priez pour moi. Et souvenez-vous, je vous ai dit la vérité. Je vous remercie d'être restés assis ici toute la journée depuis tôt ce matin. Beaucoup d'entre vous sont encore debout le long des murs et dans les couloirs, les pieds et les jambes endoloris, assis à l'extérieur, dans les voitures, votre batterie presque à plat, à force d'écouter. Et ça y est, tout est enregistré. Les frères ont fait l'enregistrement là-bas, vous pourrez vous le procurer. Et si vous le procurez, alors rapportez-le chez vous. Étudiez ça très attentivement, très sagement, et voyez ce que le Seigneur vous révélera. L'aimez-vous? Ou était dit juste avant que nous prions pour ces mouchoirs et pour les gens, je voudrais prier pour chacun de vous. Je voudrais chanter ce cantique maintenant. Ensuite, Frère Neville fera ses annonces pour l'autre service. Je l'aime, je l'aime. Vous aimez sa parole? Alors, vous l'aimez? Pas aimé le premier et à qui mon salut sur le bois du calvaire. 8h30. témoigna de la révérence, et maintenant, je me suis tenu ici et prêché, à prêcher pendant toutes ces heures, à expliquer en faisant tout ce que je peux pour mes semblables, en cherchant à leur faire comprendre les choses que j'ai dites et pourquoi j'ai fait ces choses. Et je te présente maintenant, Seigneur, ces gens, ceux qui sont visibles et ceux qui écouteront les bandes par la suite. Que Dieu lui-même en donne l'interprétation divine. Et je suis sûr, Seigneur, que j'ai apporté la parole et ton bras sur ceux sur lesquels elle a été prédestinée à tomber. Ta parole est la vérité. Père, je suis désolé de t'avoir déçu bien des fois. Je te prie de me pardonner. Je te prie de pardonner à mon auditoire, visible et invisible, tous leurs péchés. C'est que, Seigneur Dieu, nous rendons bien compte que nous sommes au bout du chemin. Tous les signes sont ici même, devant nous. Je suis sûr que la pensée spirituelle, Seigneur, capte ce que je viens de dire. Il y a quelques minutes, je prie qu'ils comprennent, Seigneur, ce que nous... Où nous en sommes, nous sommes tout près de sa venue. Nous pouvons entendre les vagues qui déferlent. Elles sont tout proches. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Je prie pour toutes les personnes assises ici. Je prie pour ces mouchoirs et pour les frères qui écoutent la bande. Aide-moi, Seigneur, à prier une prière de la foi pour tous. Maintenant, pour ceux dont le cœur est ouvert à la parole de Dieu, par la foi, je plante cette semence. Je la plante au nom de Jésus-Christ. Avec la foi en Dieu, mais Seigneur Dieu, je te les confie maintenant. Arrose-la. Fais descendre l'Esprit sur elle, Seigneur. Sur cette parole fécondée qui est là. Tu es le même grand Dieu qui guérit, le même grand Dieu qui sauve, le même grand Dieu dans la résurrection. Tu es Dieu. Puisse-t-elle produire une récolte, une épouse pour notre Seigneur Jésus, un saint sanctifié, le cœur qui pourra recevoir la parole. Accorde-le, Seigneur. Je le remets entre tes mains pour que tu choisisses ici, Seigneur, si possible, chacun d'eux, ton épouse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je maintenant serrez la main de quelqu'un. Restez dans votre chaise et serrez-vous la main. Tous en cœur maintenant avec nos mains levées. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé de premier. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, après ces 6 heures d'exhortation où la parole a été apportée, je vous ordonne de passer à la première étape. Repentez-vous et regardez en haut. Et soyez baptisés dans quelques minutes au nom de Jésus-Christ pour la rémission de votre péché. Et Dieu a promis de vous donner le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Elle est pour les méthodistes, les baptistes, les catholiques, pour les presbytères. Que celui qui veut reçoive la parole vienne, vous le croyez? Maintenant, je vais laisser avec le pasteur pour le service de baptême. Il va s'occuper des préparatifs maintenant pour qu'on se prépare pour les baptêmes. Frère Neville, maintenant, vous pouvez vous asseoir un instant. Notre frère Neville, maintenant, notre pasteur, va vous expliquer tout de suite le déroulement du service dans un instant. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que je vous revoie. Que Dieu vous bénisse. La bande est terminée.